Vous êtes sur RTL.
Humide, s'il faut la qualifier. Exactement.
Vous souhaite une ambiance orageuse à RTL.
Exactement. Bonne journée, Julien, et merci à toute l'équipe. On vous retrouve lundi matin dès 4h30 avec grand plaisir. Vous m'excuserez de la platitude de mon commentaire, mais ce matin, il est impossible de ne pas vous dire le foot qui rit, le tennis qui pleure. Pas un seul Français au troisième tour de Roland-Garros, ni Française d'ailleurs. Hein. On n'avait pas vu cela depuis 1968, et notre spécialiste Isabelle Langer nous expliquera dès 7h15 que c'était hélas prévisible. Pendant ce temps, nos Bleus se préparent dans des conditions exceptionnelles pour leur Euro de football. Et Nicolas Georgerot nous emmènera dans les coulisses de Clairefontaine, mécanisme de haute précision. L'invité de notre matinale à 7h40 est notre confrère directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum. Il publie un livre aux antipodes de l'ère du temps, entre fake news, réseaux sociaux et presse d'opinion. Lui nous propose, je cite, « Le courage de la nuance » aux éditions du Seuil. Il sera interrogé par Benjamin Sportouche. Notre débat d'éditorialiste à 8h20 et juste avant 9h, Cyril Lignac qui fait preuve de persistance puisqu'après les tomates et les courgettes, il nous propose aujourd'hui sa recette d'aubergine farcie. Et il a bien raison, nous sommes le vendredi 4 juin 2021. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Inondé deux fois en 24 heures, à la une, le désespoir de ses habitants de Seine-et-Marne.
Ils venaient à peine de nettoyer leur maison hier qu'un nouvel orage a éclaté, suivi d'un violent torrent de boue. Et ce n'est sans doute pas terminé. Nous serons sur place dans un instant. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette tentative de meurtre à Metz. Un homme a tiré hier sur sa femme en pleine rue avant de se suicider. Le couple était en train de se séparer. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, affrontement à distance, au contact des Français à moins d'un an de la présidentielle. Et puis quand la crise accélère, le recyclage. On vous expliquera comment le tri des emballages aura permis de produire les cartons nécessaires, notamment au transport de matériel médical.
La politique, Olivier Bost.
Contrôler les réseaux sociaux et les expressions politiques, l'étrange obsession de la majorité.
On en reparle dès la fin du journal.
RTL Matin.
Les mêmes images de désolation à moins de 24 heures d'intervalle à Thieux dans le nord de la Seine-et-Marne, frappé hier soir encore par de violents orages, et c'est un torrent de boue qui a de nouveau inondé un quartier situé en contrebas de la commune. On vous retrouve sur place, Valentin Boisset, bonjour.
Bonjour.
Tout est allé très vite, hein, le niveau de l'eau est monté extrêmement rapidement.
Oui, en une dizaine de minutes hier soir, l'eau est montée de plusieurs dizaines de centimètres. Un torrent de boue selon les habitants. Ce matin, la mairie de la commune paraît tout simplement assiégée par une dizaine de centimètres de terre. Le bitume de la route a même cédé et surtout, les habitants se sont réveillés tôt dans les rues car il faut évacuer. Environ 80 maisons sont touchées. Certaines ont tout le premier étage détruit comme chez Frédéric par exemple. Il s'est levé à 5h ce matin avec sa femme. Il quitte le domicile familial.
C'est ma femme qui emmène les enfants chez sa belle-mère en Normandie. On a la moitié de la maison qui a du courant, donc un peu compliqué. Voilà, les deux portes de garage, elles ont cédé sous la pression de l'eau, et puis bah tout est rentré encore de plus belle. Quoi. Là, l'eau, elle arrivait... On voit la trace sur la porte, là, il y a bien 1m20.
Là, on entend l'orage à côté de nous.
Ouais, ça arrive, et je crains que ça soit pire encore qu'hier. C'est comme les sols, ils sont gorgés. En 2 secondes, ça va revenir même état qu'hier, et pire, quoi. C'est affreux, quoi.
Ouais, pour l'instant, il ne pleut pas encore. Hein. Le ciel semble peu à peu se dégager au-dessus de moi. Le maire souhaite lui demander désormais le placement en état de catastrophe naturelle le plus vite possible. Il faut aussi noter que la commune voisine Juilly a payé un lourd tribut hier soir. Les routes menant jusqu'ici sont d'ailleurs aujourd'hui interdites d'accès.
Merci Valentin Boisset. Louis Baudin, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on peut les rassurer, ces habitants, espérer une accalmie?
Non, malheureusement, oui, il y aura des accalmies, mais d'autres épisodes orageux sont attendus. Il y en a un qui arrive là sur le sud de l'Île-de-France en ce moment, qui va traverser la capitale dans l'heure qui arrive, hein, avant 8h, avec encore de grosses intensités, et puis d'autres se préparent sur le Massif central. Donc tout au long de la journée, malheureusement, il y a un très fort risque, y compris sur la Seine-et-Marne.
Merci beaucoup Louis, journée perturbée dans le ciel. Vous l'avez compris, on vous retrouvera pour une météo complète juste avant 7h30. Il est 7h03 sur RTL. Les excuses, une nouvelle fois hier soir sur RTL, du patron d'Orange, Stéphane Richard.
La panne qui a rendu injoignable durant plusieurs heures les principaux services de secours est désormais réparée, mais les conséquences de cet énorme bug technique a peut-être eu des conséquences dramatiques. Un homme est mort dans le Morbihan, faute d'avoir pu joindre les services de secours. 2 autres cas similaires recensés à La Réunion. Et puis en Vendée, hier, c'est un enfant de 2 ans et demi qui n'a pu être secouru Sa mère avait tenté, durant une heure, de joindre le SAMU et les pompiers. Nicolas Bobby.
Le garçonnet de 28 mois était en arrêt cardio-respiratoire. Pendant une heure, sa maman a tenté de joindre les secours le 18, le 15, sans succès, jusqu'à 8h21. Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'ARS Pays de la Loire.
C'est plutôt via les réseaux sociaux qu'elle a pu trouver ce numéro à 10 chiffres qui a permis effectivement de pouvoir contacter le SAMU.
Une minute après son appel, les pompiers de Chavagne-en-Payet et le SMUR de La Roche-sur-Yon ont été engagés, puis à 8h46, une équipe pédiatrique de Nantes. Conseillée par un médecin régulateur, la mère de famille a tout tenté pour sauver son fils en pratiquant des gestes de réanimation. Malheureusement, l'enfant est décédé à son domicile à 9h25. La chaîne de secours a parfaitement fonctionné, mais avec beaucoup de retard. L'ARS va diligenter une enquête administrative. Le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon a transmis un signalement au procureur.
Nicolas Bobby, quelques jours seulement après l'assassinat en pleine rue à Hayange d'une femme tuée par son conjoint. Souvenez-vous, cette nouvelle tentative de meurtre hier, dans un quartier de Metz cette fois. Un homme a poignardé sa compagne en pleine rue avant de lui tirer dessus à deux reprises. Sous l'œil impuissant des passants, ce voisin a tout vu, tout entendu depuis sa fenêtre.
Plusieurs cris, appelez la police, aidez-moi, aidez-moi. Et j'ai vu une femme au sol, lui mettait des coups. Et ensuite, il est parti. Il est parti sur l'autre trottoir. Et je pense personnellement qu'il a vu la police au loin, il a attrapé peur, il est revenu en courant et il a commencé à l'insulter de tous les noms, il l'a mis contre le camion, il l'a poussé au sol et il lui a tiré deux balles je sais pas où et lui il s'est tiré dans la tête. Il a pas hésité. Au début il a hésité parce qu'il braquait tout le monde au fur et à mesure. Je pense qu'il a hésité au début, mais quand il est revenu la seconde fois, il n'a pas du tout hésité. Je pense qu'il a vu la police au loin, il n'a vraiment pas hésité, il a tiré sur elle et sur lui-même.
Un propos recueilli par Samuel Goldschmidt. La femme est grièvement blessée. L'homme lui est décédé dans la soirée.
Elle tenait à être présente. Hein. Mila est venue hier se confronter à ses harceleurs alors que s'est ouvert leur procès.
13 personnes jugées pour avoir insulté et parfois menacé de mort la jeune fille sur les réseaux sociaux après la publication d'une vidéo dans laquelle elle critiquait l'islam. Plus de 100 000 messages reçus en un an et demi. Mila vit aujourd'hui sous protection policière mais garde sa liberté de parole intacte et réclame aujourd'hui justice.
Il n'y a pas d'anonymat. Que l'on soit un jeune adolescent, un adulte, à partir du moment où on commet un crime sur Internet, on peut être recherché, on peut être retrouvé et on peut être jugé devant un tribunal. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La peur change de camp. Plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace et au harcèlement qui fera qu'empirer si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre.
Un propos recueilli par Alice Moreno pour des questions de procédure. Les audiences reprendront le 21 juin.
À la veille de la Journée mondiale de l'environnement qui a lieu demain, on parle recyclage dans un instant sur RTL et vous allez comprendre pourquoi trier ses déchets est devenu stratégique pour notre économie. À tout de suite, vous regarderez votre poubelle d'un autre œil ensuite.
RTL Matin.
7h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Au-delà du geste civique, on se demande souvent à quoi sert de trier nos emballages. Eh bien, voici ce matin une réponse très concrète.
Oui, pendant le premier confinement, c'est grâce aux tonnes de carton et de plastique recyclés que les entreprises ont pu tourner et produire les énormes quantités d'emballages dont nous avons eu besoin dans le secteur de l'alimentaire ou encore essentiel, celui du médical. Et là, Virginie Garin, le circuit a parfaitement fonctionné.
Oui, pendant le premier confinement, la consommation de carton a augmenté. Les fabricants d'emballages ont dû trouver de la matière première. Jean Ornin est le directeur général de Citeo, l'organisme qui gère le recyclage en France.
Pendant la crise sanitaire, en fait, il y a eu une très grande importance de pouvoir s'approvisionner, on va dire localement, au niveau de la France. Tout ce qui a été consommation à distance, livraison, on a eu des besoins énormes.
Les Français faisaient des stocks de pâtes, d'eau, il fallait des emballages et des cartons pour les transporter.
Pour approvisionner la distribution pour pouvoir nourrir les Français, les pharmacies, les hôpitaux, en fait, tous ces cartons-là sont faits à 90% de cartons recyclés. Et donc, heureusement que le geste de tri pendant la crise a été préservé, parce que c'est bien cela qui a permis de pouvoir alimenter cette industrie.
Depuis un an et demi, la matière plastique manque dans le monde pour faire des flacons de gel, des tests, des masques. C'est l'un des effets positifs de cette crise. Elle a donné un coup de fouet à la filière française du recyclage qui a accéléré la recherche, la production. Le plastique recyclé est devenu moins cher que le plastique fait avec du pétrole.
Virginie Garin, la France suspend ses opérations militaires conjointe avec le Mali. Un choix justifié par le récent coup d'État survenu dans le pays. Décision prise dans l'attente de garanties sur un retour des civils au pouvoir.
7h10, Emmanuel Macron a clôturé hier soir son déplacement dans le Lot, tandis que Marine Le Pen a passé, elle, la journée dans la Loire.
Officiellement, bien sûr, il ne s'agit pas d'une pré-campagne, ni pour le chef de l'État venu, je le cite, sentir l'humeur du pays, ni pour la présidente du Rassemblement National venue soutenir, elle, son candidat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourtant, c'est bien la présidentielle que les deux ont en tête. Et à moins d'un an de l'échéance, Marine Le Pen réfléchit à céder les rênes du parti. Et Marie Mollet, c'est l'une des jeunes pousses du RN qui semble avoir les faveurs de la patronne.
Oui, et roulement de tambour, le grand favori s'appelle Jordan Bardella, vice-président du parti, la star des plateaux télé. Son ascension fulgurante, sa jeunesse, son envie poussent Marine Le Pen à lui laisser les clés de la boutique pendant la campagne. « Vous envoyez un autre qui a autant de talent ?» demande-t-elle souvent en privé. « C'est le plus dynamique d'entre nous tous, abonde un cadre ?» Jordan Bardella, qui a aussi l'avantage d'être totalement dévoué à la chef. « Marine m'a tout appris », aime-t-il à répéter. Il devrait donc avoir la charge de tenir l'appareil et surtout de préparer les législatives de 2022. Tout semble calé donc, mais Louis Alliot, le maire de Perpignan, a récemment fait savoir qu'il pourrait se laisser tenter par le poste. Un concurrent de taille, même si certains cadres du parti le pensent hors-jeu, trop occupé à gérer sa ville. Quoi qu'il arrive, il n'aura personne d'autre à convaincre que Marine Le Pen. Les militants ne voteront pas, elle seule décidera.
Marie Mollet pour RTL. Je vous signale, si vous êtes à Lille, que suite à un mouvement de grève, aucun bus ni tramway ne circule ce matin sur la métropole lilloise. La ligne 2 du métro est également perturbée, nous signale Franck Hanson. Et puis on peut parler d'une véritable débâcle après moins d'une semaine de tournoi. Il n'y a plus aucun Français ce matin à Roland-Garros, chez les hommes comme chez les femmes, le pire bilan depuis 1968. Exit hier, les quatre derniers rescapés, Kristina Mladenovic, Fiona Ferro chez les dames, Gaël Monfils et Richard Gasquet chez les messieurs, le Biterrois qui n'aura pas survécu longtemps hein, face au roi Nadal, battu en 3-7, 6-0, 7-5, 6-2.
Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
En nocturne, avec les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 11, le 4, le 10, le 12, le 6 et le 8. La dernière minute, c'est le 4 cadet.
Le journal nous a été proposé par Dominique Tenza. Il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Élargir le contrôle des temps de parole dans les médias, surveiller les manipulations de l'information, le gouvernement redoute une campagne présidentielle perturbée, Olivier ?
Oui, et deux informations très récentes, pas des fake news, hein, deux informations interpellent. La première vient du conseiller politique d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, également député européen. Il veut contraindre plus strictement les temps de parole dans les médias, classer les intervenants, plus seulement les élus, selon leur appartenance politique supposée. Il l'a expliqué dans le journal L'Opinion. Ce qu'il vise avec cette idée saugrenue, c'est la chaîne CNews, accusée de n'avoir que des plateaux marqués à droite et très à droite, avec Éric Zemmour notamment. Cela revient en fait à demander de museler des opposants politiques trop écoutés. N'importe qui peut le penser, mais un conseiller politique du chef de l'État est le plus mal placé pour le dire. D'autant que la pluralité est là, il y a quatre chaînes d'information continue aujourd'hui, de quoi trouver son bonheur, et l'audiovisuel est le seul secteur déjà régulé qui donne dans les comptes d'apothicaire des temps de parole à l'approche des élections. La presse écrite, les réseaux sociaux n'ont aucune contrainte d'équilibre. Ce qui interpelle, de la part d'un proche d'Emmanuel Macron, c'est cette volonté de vouloir réguler. Mais il n'y a pas que ça.
Vous avez un autre exemple ?
Oui, et là c'est la deuxième information. L'annonce, mercredi, au détour d'une audition à l'Assemblée nationale, de la création d'un service chargé des manipulations de l'information. Son futur patron assure qu'il ne sera pas chargé de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais de signaler quand un contenu est propagé à partir de l'étranger. Ce qui revient quand même à déterminer si ce contenu est problématique. L'objectif est louable, il s'agit d'éviter que les Russes ou les Turcs, deux exemples pris au hasard, tentent de déstabiliser notre élection présidentielle en propageant de fausses informations sur un candidat. Le service chargé de surveiller ses activités est censé travailler en toute transparence, mais pour diffuser le résultat de son travail, désigner un pays qui tente de saper la campagne présidentielle, cela passera par l'Élysée et par le Conseil de défense.
Donc là encore, c'est une volonté de contrôle et de contrôle politique, c'est ça ?
Il faudra voir l'usage qui en sera fait, mais l'idée est lancinante de la part de la majorité. La République En Marche s'est fait retoquer une loi l'année dernière par le Conseil constitutionnel parce qu'elle entamait trop la liberté d'expression. C'était la loi Avia contre la haine sur Internet. Le gouvernement avait aussi mis en place un site Internet avec la sélection de ce qu'il estime être de bonnes informations. Cette volonté répétée de réguler, de contrôler, comporte un risque, celui de se transformer en camp du bien. Et le camp du bien, ça finit mal.
Merci beaucoup Olivier Bost. Je vous rappelle le programme du rendez-vous politique de dimanche sur RTL. C'est Marine Le Pen qui sera face au grand jury. RTL, Le Figaro, LCI, rendez-vous dimanche dès midi avec la présidente du Rassemblement National. Dans un instant, Cocorico, on s'intéresse aux sportifs français. Enfin, je ne sais pas si je vais dire Cocorico en ce qui concerne le tennis. Nous irons d'abord à la porte d'Auteuil avec Isabelle Langer. Il n'y a plus aucun Français en lice, vous l'avez compris. Puis nous irons ensuite à Clairefontaine pour suivre la préparation de l'équipe de France avec Nicolas Georgerot. C'est de la mécanique de haute précision. A tout de suite sur RTL, il est 7h15.
Yves Calvi,
RTL Matin.
En ce vendredi matin, nous avons décidé de nous intéresser aux sportifs français. Dans quelques secondes, nous serons à Clairefontaine avec Nicolas Georgerot pour suivre la préparation des Bleus. L'Euro de football aura lieu, je vous le rappelle, du 11 juin au 11 juillet. Mais auparavant, prenons la direction de la Porte d'Auteuil où c'est désormais historique. Pour la première fois dans l'histoire de Roland-Garros, depuis le début de l'ère Open en 1968, aucun tricolore, homme ou femme, n'est qualifié pour le troisième tour. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Aucun bleu en course à Roland-Garros, Isabelle, est-ce vraiment une surprise?
J'ai presque malheureusement envie de dire que c'était écrit, parce que le classement, l'état de forme et le niveau des tricolores ne leur permettent pas aujourd'hui de pouvoir jouer les premiers rôles. Chez les hommes, seuls Monfils et Humbert étaient tête de série. Du coup, les autres Français n'ont pas été ménagé lors du tirage au sort. Chardy a par exemple hérité d'entrée du numéro 5 mondial Tsitsipas. Les autres sont tous tombés sur mieux classés qu'eux et n'ont pas réussi un exploit. Chez les femmes, finalement, c'est le même constat. Aucune n'est aujourd'hui dans le top 50 mondial et aucune n'est parvenue à créer une belle surprise.
Faut-il être inquiet pour l'avenir?
Chez les femmes, pas vraiment. Caroline Garcia, ancienne numéro 4 mondiale, qui vient de mettre un terme à sa collaboration avec son père et s'est adjoint les services d'un ancien entraîneur d'Amélie Mauresmo a le talent pour retrouver les sommets. Fiona Ferro possède le mental pour passer bientôt la vitesse supérieure et les Clara Burel, Diane Parry, Elsa Jacquemot, brillantes en junior, devraient vite faire parler d'elles chez les pros, sans oublier la pépite Océane Babel, 17 ans. Retenez bien ce nom, Yves, nous en reparlerons très très vite. Chez les garçons, c'est indéniable, il y a un trou générationnel. Derrière le quatuor vieillissant des Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon, Lucas Pouille n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure au coude. Hugo Humbert, pourtant 32e mondial et numéro 2 tricolore, est encore trop tendre en grand chelem. Et les petits jeunes d'à peine 20 ans, comme Arthur Cazot ou Harold Maillot, sont loin d'être à maturité.
Que faire pour changer la donne?
Ne plus se focaliser uniquement sur le haut niveau, mais revenir à la base, redonner ses lettres de noblesse à la formation. Tsonga le disait avant-hier, il faut que la fédération travaille de concert avec les académies privées, mais aussi les petits clubs dans les départements, qu'elle implique aussi les familles. Enfin, pour d'anciens joueurs, le plus important n'est pas de dénicher un gamin avec un joli coup droit. Il faut surtout être attentif à son attitude, son envie, son mental, son implication. Si à 11-12 ans, il a tout ça, il l'aura encore plus à 20. C'est ce petit supplément d'âme, celui du travail, de la niaque, qui fera de lui un champion.
Merci beaucoup Isabelle Langer. On continuera évidemment à suivre le tournoi grâce à vous avec curiosité. Alors, mardi soir, l'équipe de France de football affronte, elle, la Bulgarie. Les Bleus sont en pleine préparation de l'Euro qui se déroule, je vous le rappelle, du 11 juin au 11 juillet. L'équipe de France va voyager à Munich, à Budapest, en attendant peut-être d'autres destinations. Il n'y aura pas de camp de base fixe, mais c'est à Clairefontaine dans les Yvelines, à 50 km au sud de Paris, que l'encadrement des Bleus effectue cette préparation. Visite de l'intérieur ce matin avec vous Nicolas Georgerot. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les Bleus y ont leurs habitudes et bénéficient d'installations de très haut niveau.
Oui, ce jour-là, au cœur des 62 hectares du site, la voiturette d'Éric Latronico se faufile au milieu des bâtiments.
C'est à peu près 70 personnes pour faire fonctionner le site.
C'est lui qui dirige le Centre National du Football depuis presque 10 ans.
On se trouve au milieu d'une forêt qui est protégée, une forêt de Rambouillet, qui nous permet d'avoir un écrin de verdure, de calme, pour pouvoir préparer les équipes à leurs différentes échéances.
Début de la visite par le château. Depuis le milieu des années 80, c'est la résidence de l'équipe de France.
On se trouve actuellement dans le salon qu'on appelle le
salon Aimé Jacquet, c'est un salon de vie particulier puisque c'est là que les joueurs et le staff ont la possibilité de pouvoir échanger. On lit la presse, on joue aux cartes, on discute dans ce lieu.
Deux grands canapés, un baby-foot, une table de ping-pong, parquet, boiserie et ton bleu nuit pour la décoration. À quelques mètres de là, le salon Raymond Coppa.
Cette salle, ce n'est ni plus ni moins qu'une salle de réunion, mais elle est chargée d'histoire. C'est la salle de brief. C'est là que le coach expose ses tactiques. C'est peut-être la salle la plus importante du bâtiment.
Un petit couloir mène ensuite aux chambres.
Il y a 30 chambres dans le bâtiment, 20 chambres doubles et 10 chambres singles. Les joueurs ont leurs habitudes puisque leurs chambres sont attitrées.
Le staff au rez-de-chaussée, les joueurs dans les étages.
Alors comme vous pouvez le voir, elles ont été rénovées dernièrement. On est sur un standing de bonne qualité sans être dans l'excès. Ça, c'était important de le préciser. Là, on a tout misé, si je puis dire, sur la literie, qui est un point extrêmement important. Pour que l'athlète soit performant, il faut aussi qu'il puisse bien dormir.
Durant 7 euros, chaque joueur a son portrait dessiné sur la porte de sa chambre. À l'entrée aussi, une attention particulière.
Ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre ces fameuses plaques à l'entrée des chambres qui reprennent les occupants de ces chambres lors des épopées qui ont permis d'arriver au moins en finale d'une grande compétition. Donc là, vous avez typiquement Aimé Jacquet qui a résidé dans cette chambre lors de la finale France 98. Puis ensuite, c'est Roger Lemaire qui a occupé cette
chambre. Chambre 17 pour Didier Deschamps.
C'est la particularité de cette chambre, si je puis dire, puisqu'elle a été occupée par le joueur, elle a été occupée par l'entraîneur. Et maintenant, ça fait quelques temps qu'effectivement, il est habitué à venir nous rendre visite ici.
Certaines entreprises organisent des séminaires durant l'année. La résidence se transforme alors en hôtel. Il est donc possible de dormir dans la chambre de Kylian Mbappé ou d'Antoine Griezmann.
Clairefontaine, c'est d'abord avant tout un centre d'entraînement et les conditions de jeu doivent être absolument parfaites, Nicolas.
Les terrains, évidemment, endroit névralgique. 10 terrains au total, pelouse naturelle, synthétique ou hybride.
On est devant le terrain qu'on appelle le stade Pierre Pibarot, qui est le terrain d'honneur ici à Clairefontaine. On y trouve une tribune de 400 places qui nous permet d'accueillir le public qui vient assister aux entraînements de l'équipe de France.
Pelouse tondue deux fois par jour actuellement, une qualité proche de celle du Stade de France ou du Parc des Princes, précise Eric Latronico.
Et la particularité d'un terrain hybride, chauffé, on y a installé un certain nombre de caméras qui permettent d'enregistrer les diverses séances d'entraînement pour pouvoir les décrypter à l'issue des entraînements.
Si jardiniers s'occupent à plein temps des aires de jeu, les Bleus s'entraînent aussi régulièrement sur un autre terrain. Il est encaissé à l'abri des regards.
Là où je me sens le mieux, c'est sur le terrain Platini.
Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, qui fréquente Clairefontaine depuis plus de 20 ans.
Je sens une sérénité sur ce terrain-là. On est entouré d'espaces verts. C'est une bonne atmosphère de travail. J'ai des bons souvenirs en plus, des souvenirs d'entraînement réussi. Je me sens bien sur ce terrain.
C'est là que se font les mises en place tactiques. C'est là que s'élaborent les stratégies lors des séances à huis clos.
Parmi les installations de très haut niveau, il y a également le pôle médical où vous avez pu accéder.
Oui, un centre labellisé, pôle excellence par la FIFA, dans une première salle des équipements dernier cri, des sportifs en soins.
C'est une salle de réathlétisation, il y a une équipe de kinés qui travaille ici au quotidien avec un peu plus d'une centaine de patients, de joueurs professionnels qui passent entre nos mains chaque année.
Des installations plébiscitées par Raphaël Varane, l'un des vice-capitaines des Bleus.
Il y a vraiment tout ce qu'il faut, on a des installations de très très haut niveau, un staff médical, des soins, une préparation physique qui est top. Il y a aussi le savoir-faire à la française dans le foot.
Un peu plus loin, c'est ici que le milieu de terrain Thomas Lemar, touché à la cuisse, a récemment poursuivi son travail pour être remis sur pied.
On retrouve un bassin de balnéothérapie, un jacuzzi, un bain froid, un sauna, un hammam, qui sont autant d'équipements nécessaires pour qu'il puisse être de nouveau performant le plus rapidement possible.
Et pour être encore plus efficace, les derniers travaux effectués avant la Coupe du Monde 2018 ont permis d'installer un deuxième espace de balnéo à côté du vestiaire, directement dans les sous-sols du château.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot, dans les coulisses de la préparation des Bleus pour l'Euro de football. Dans un instant, Johnny Hallyday et Julio Iglesias. Mais oui, au menu de la pépite d'Anthony Martin, les grosses têtes seront là aussi. Et nous allons faire un point très détaillé de cette météo perturbée et des orages avec Louis Baudin. RTL Matin. RTL Matin. Yves Calvi.
C'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qu'avez-vous à nous proposer ce matin?
Alors je vous propose de retrouver une voix qui a eu énormément de succès en France à partir de la fin des années 70. Un Latin lover de légende. Il a vendu 250 millions d'albums, je pense que vous avez trouvé. C'est Julio Iglesias.
Et oui.
En 1978, un an avant son tube Je n'ai pas changé, Julio Iglesias remportait un joli succès avec sa version espagnole de la chanson de Johnny Hallyday, J'ai oublié de vivre. À force de jeter son cœur dans un micro, lui aussi portait les projecteurs comme une croix dans le dos. Mm-hmm. Les paroles de Pierre Billon lui collaient à la peau. Julio Iglesias a traduit tout ça. La chanson est devenue « Me olvidé de vivir si. ». Et c'est notre pépite du jour. Un an après Johnny, Julio reprenait à sa manière « J'ai oublié de vivre ».
De tanto ocultar la verdad.
engañé sin saber que era yo quien perdí mi vida. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Donc ça lui va bien, hein.
Exactement, c'est cool, la chanson. Ouais, bah, très bien, ça lui va très bien. C'est la chanson qui ouvrait son album Emociones, de Julio Iglesias. Gros succès en Espagne. Et 3 ans plus tard, Johnny a voulu rappeler quand même que c'était lui le patron, que c'était sa chanson. Ah bon, il a donc lui-même enregistré la version de Julio.
Non.
Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir.
C'est une autre ambiance, hein. On trouve ce morceau dans l'album collector Johnny Hallyday Canta en Castellano, sorti en 1982, je vous le conseille.
Oh là là.
Alors Johnny m'avait raconté qu'il aimait beaucoup cette chanson J'ai oublié de vivre, mais sur disque. Il détestait la chanter sur scène parce qu'il s'ennuyait pendant qu'il l'interprétait. Et je me souviens, il me disait, pendant que je la chante, bah, je pense à ce que je vais manger après.
Ça ne s'invente pas.
Non.
Ce commentaire, c'est du liqueur sucre. Merci beaucoup, Anthony. Là, vous m'avez coupé les jambes. Alors, on se retrouve lundi pour une nouvelle série de pépites. Et bien sûr, à tout moment, en replay via l'appli RTL.
À lundi.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est chaque après-midi de 15h30 à 18h en public depuis le grand studio RTL. Ce matin, les grosses têtes évoquent leur maman.
Moi, j'ai eu la meilleure mère au monde.
Ah, moi aussi.
Okay. Elle nous écoute. Et je l'ai vue en photo parce que pour la fête des mamans, vous aviez mis
non.
sa. Non. Ah non.
Non, c'est pas moi. Vous confondez avec quelqu'un d'autre, Laurent.
Ouais, c'était moi, peut-être.
Non, c'est Caroline Diamant.
Oui, parce que moi, ma mère est très
discrète. Elle a une mère. Elle a une mère.
Ah oui, Marguerite, elle s'appelle, la maman de Caroline. Ah oui, j'ai confondu avec votre maman à vous.
Non, ma mère est très discrète, donc elle n'aimerait sans doute pas que je la mette en photo.
Oui. Bon, moi, ma mère est très bien. Elle a 90 ans. Je la salue.
Ah, mais oui, c'est vrai. Vous étiez allé la voir à Lyon, je me souviens, quand
bien
on
sûr.
Avait fait un déplacement là-bas.
Eh oui.
Mais comment elle peut avoir 90 ans et vous 95?
Le ton est donné, on les retrouve dès 15h30. Le risque orageux reste maximal, Louis Bodin.
Ah bah là on y est, en plus par exemple sur l'île de France, hein, où il fait nuit à nouveau, là, c'est avec des précipitations intenses accompagnées d'orages. Et ça donne le ton de la journée, hein, puisque ces averses orageuses, ces lignes d'orage vont circuler des Pyrénées jusqu'au Nord-Pas-de-Calais tout au long de la journée. Il y aura un peu de soleil quand même du côté de la Bretagne et près des frontières de l'Est. Et avec ces orages, attention, parfois de la grêle, de fortes rafales de vent et malheureusement des risques d'inondation. Les températures dans la moitié ouest, on sera entre 16 et 19, 20 degrés grand maximum, encore 25 à 30 degrés dans l'Est.
Merci beaucoup Louis. RTL, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 4 juin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Le père de la petite Maëlys parle ce matin sur RTL, car c'est désormais certain, Nordal Lelandais sera bien jugé pour le meurtre de la petite fille. Pas pour viol, mais il est également poursuivi pour agression sexuelle sur deux de ses cousines alors qu'elles étaient mineures. Le père de Maëlys, Joachim De Arrojo, attend du procès une peine exemplaire.
Qu'il soit sanctionné déjà une part par rapport à tous ces mensonges. Ça a été dur d'attendre 6 mois qu'il ait bien voulu avouer.
Parce qu'on n'a retrouvé que des ossements de votre fille.
Que des ossements, oui. Alors qu'on aurait pu l'enterrer, lui faire des funérailles, entre guillemets, plus honorables. Que là, c'était un cercueil vide. Pour moi, il était vide, quoi. Et j'ai pas vu ma fille, encore une dernière fois.
Pour vous, c'est quelqu'un de très dangereux.
Ah oui, oui, mais très, très dangereux. Pour la société, manipulateur, menteur. Un enfant n'a rien pour se défendre. C'est une personne innocente. Là, on parle d'un meurtre et enlèvement à un mariage. Me voir sortir, non, j'imagine même pas.
Vous l'appréhendez aussi, ce procès?
Non, non, c'est pas l'individu, c'est la décision qui m'inquiète. Savoir si vraiment ça va être pris à la hauteur de la gravité, surtout, sa condamnation.
Le père de la petite Maëlys, Joachim Desarrojos, au micro RTL de Serge Pueyo. Nandal Lelandais a été condamné le mois dernier à 20 ans de réclusion pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Une tentative de féminicide en pleine rue, ça s'est passé hier après-midi à Metz. Un homme a tiré deux coups de feu sur sa compagne avant de retourner l'arme contre lui. Elle est hospitalisée dans un état grave.
On l'a appris hier soir, un enfant de 2 ans est mort en Vendée, possiblement en lien avec la panne qui a perturbé les services d'urgence mercredi soir.
Cela porte à 4 le nombre de décès suspects. Dans le Morbihan, c'est un homme de 63 ans qui est décédé aux urgences de l'hôpital de Vannes. On déplore aussi 2 morts par AVC à La Réunion. Une enquête administrative est ouverte, mais également une enquête judiciaire. Invité d'RTL Soir hier, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a présenté des excuses et il s'est expliqué sur l'origine de cette panne.
On a déjà écarté un certain nombre d'hypothèses. Ce n'est pas une attaque, ça c'est très important. Et 2, l'opération de maintenance, j'ai beaucoup entendu dire que c'est l'opération de maintenance, non.
Non plus.
Donc, c'est une défaillance logicielle. En gros, c'est une commande classique qui a été, pour une raison que je ne sais pas vous décrire aujourd'hui, mais on le saura, bien entendu, mal interprétée par la machine et qui a entraîné ça.
Stéphane Richard avec Amandine Bégaud. A priori, tout est rentré dans l'ordre au niveau des appels. Jean Castex est attendu ce matin au centre interministériel de crise. La vaccination en France avance à pas de géant. Un nouveau record a été battu hier. Plus de 700 000 injections en 24 heures. À ce rythme, le cap des 30 millions de primo-vaccinés sera forcément atteint à la mi-juin. On est déjà à 27 millions. Et pour accélérer encore, la Haute Autorité de Santé recommande désormais de vérifier les traces d'une infection passée lors de la première injection. Il suffit d'un test sérologique, Odile Pouget.
Oui, cette petite piqûre au bout du doigt vous sera proposée juste avant l'injection de votre première dose de vaccin, résultat en un quart d'heure. Si le test, fiable à 99,9%, révèle la présence d'anticorps, pas de rendez-vous pour la seconde injection. La protection immunitaire est excellente, meilleure même que pour les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin mais qui n'ont jamais été en contact avec la maladie. Aucun caractère obligatoire à ce test sérologique, gratuit, mais un immense avantage, celui de libérer plusieurs millions de vaccins. Le réservoir de personnes n'ayant besoin que d'une seule dose est énorme, puisque selon les calculs de l'Institut Pasteur, 22% des Français auraient finalement été infectés. Or, seuls 8% en ont la preuve après un test virologique.
Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. La colère chez Office Depot. Le tribunal de Lille a choisi comme repreneur la coopérative Alcor, qui détient déjà la marque majuscule. Alcor reprend moins d'un tiers des effectifs et conserve 50 magasins. Les syndicats dénoncent un carnage social. Écoutez Sébastien Fournier, le secrétaire du CE.
Franchement, on ne comprend pas la décision du tribunal. On est sans dessus dessous. On était déjà en colère, mais là, je crois qu'il n'y a même pas de mots. Le tribunal, il prend la décision sur l'offre la moins disante. C'est du jamais vu. On est 1500 aujourd'hui. Avec Adex Group, on passait à 628. Et là, avec Alcor, 460. C'est 1000 salariés sur le carreau. De toute façon, on va pas se laisser faire. C'est juste pas possible.
Un propos recueilli par Franck Hanson. À l'étranger, la France a décidé de suspendre ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Un coup de pression sur Bamako après le coup d'état du 24 mai qui a porté les militaires au pouvoir.
Roland Garros 2021.
C'est sur RTL.
Alors en tennis, c'est tout simplement du jamais vu.
Aucun Français au troisième tour à Roland Garros, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Richard Gasquet était le dernier en lice hier soir, mais il n'a rien pu faire face à Raphaël Nadal. Pas mieux pour Gaël Monfils, Kristina Mladenovic et Fiona Ferro. De cette journée, on retiendra tout de même la qualification de Novak Djokovic et celle de Federer en 4-7 contre le Croate Cilic. Deux informations pour terminer en football. D'abord, la Ligue 1 va repasser à 18 clubs dès la saison 2023-2024. Et puis c'est confirmé, il y aura des spectateurs mardi pour le match de préparation à l'Euro France-Bulgarie. 5000 supporters pourront assister à cette rencontre au Stade de France. Par dérogation, le couvre-feu a été décalé à 23h avec une journée d'avance donc sur le calendrier qui était prévu.
Merci Isabelle Choquet, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et je vous présenterai les Queen Amman, un groupe de gars qui monte un spectacle de majeur.
Peut-être un peu beaucoup pour moi.
Mais non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Oui,
tout à l'heure.
Je vais me préparer intérieurement. Bonjour François Langlois.
Bonjour.
La panne des serveurs pour joindre les urgences, vous rendez philosophe ce matin?
Oui, je joue au but du CNRS. Je me suis dit, on reçoit le monde d'élite tout à l'heure, il faut se mettre au niveau.
Non, moi ce que je voudrais proposer, c'est une thèse de éventuellement de philosophe chevelu, mais ça ne vous concerne
ça,
pas.
À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langue l'écho avec vous François Langlois.
Bonjour à tous.
La longue panne avant-hier du service d'appel d'urgence, les 15, 17, 18 et autres 112, émeut jusqu'au sommet de l'État.
Oui, Emmanuel Macron s'est dit très préoccupé par cette affaire, tout comme le Premier ministre Jean Castex.
Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a tout bonnement convoqué hier Stéphane Richard, le patron d'Orange, l'opérateur téléphonique à l'origine de la panne, pour le sommet de s'expliquer. Une défection matérielle de Télécom qui fait réagir tout l'exécutif français. Bien sûr, bon, ce sont les conséquences dramatiques de la panne qui déclenchent ces réactions. Plusieurs décès auraient été provoqués de façon indirecte, on ne le sait pas encore, hein, par l'impossibilité d'appeler les secours et donc le retard dans l'intervention des soins. Pourtant, les retards dans les secours, ça arrive malheureusement à cause de la surcharge, des embouteillages, et ça peut avoir des conséquences fatales. Mais ça ne doit pas arriver à cause de la technologie.
François, vous voulez dire qu'on ne supporte plus la moindre panne ?
Pas la moindre panne, le moindre défaut, le moindre retard. Il y a 30 ou 40 ans, une panne de téléphone n'aurait ému personne. Il y a 50 ans, elle n'aurait même pas été rapportée par les médias parce que tout le monde n'avait pas le téléphone. Aujourd'hui, elle est insupportable. Parce que nos attentes et nos vulnérabilités progressent avec le niveau de technologie. Plus la technologie est fiable, plus nous sommes vulnérables.
Bah oui, mais ce devrait être le contraire en bonne logique, hein.
C'est vrai, mais une technologie fiable, ça fonctionne mieux, on l'utilise donc beaucoup plus. Du coup, on a beaucoup à perdre si elle tombe en panne. Regardez ce qu'il y a dans votre téléphone, toute votre vie privée et professionnelle, probablement au moins sur 10 ans. Toute votre existence sociale, l'accès à vos comptes bancaires, vos cartes de crédit, des données de santé comme votre certificat de vaccination. Si vous confiez tout ça à votre téléphone, c'est justement parce que vous avez confiance. Et c'est ça qui crée votre vulnérabilité face à la panne, ou d'ailleurs à la malveillance, hein. La cyberattaque. Plus le niveau technologique augmente, plus la confiance des utilisateurs augmente, et donc plus la menace augmente. Parce qu'on se met à la merci d'un incendie de serveur, celui d'OVH à Strasbourg il y a 3 mois, d'une cyberattaque comme celle qui a paralysé l'alimentation en carburant des États-Unis il y a 1 mois. Et comme l'épidémie n'a fait qu'accélérer la numérisation de l'activité humaine, bah les risques se sont encore accrus. Presque toute la vie des hommes et des entreprises est désormais digitalisée utilisant les réseaux de téléphone.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Ne plus faire autant confiance à la technologie. Je force un peu le trait, hein, mais c'est quand même vrai. Si vous avez moins confiance, bah vous faites de la prévention des pannes, en multipliant les contrôles. Vous investissez pour vous protéger. Vous vous exposez moins, en détruisant les données sensibles dont vous n'avez plus besoin sur le réseau. Vous vous assurez. L'essor des cyberattaques depuis le début d'année est tel que les primes d'assurance contre ce fléau ont progressé en 6 semaines de 27%. Entre le début avril et mi-mai. Et il en a toujours été ainsi. C'est l'incendie de Londres au XVIIe siècle qui avait permis l'essor de l'assurance des immeubles, le changement des pratiques de construction et la création de brigades de pompiers.
Plus la technologie est fiable, plus nous sommes vulnérables. On n'oubliera pas cette notion que vous nous avez proposée au début de cette chronique. Merci beaucoup François. Rendez-vous sur RTL.fr pour le hors-série de Langue l'écho, votre podcast hebdomadaire inédit. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour, bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Jean Birnbaum, essayiste, rédacteur en chef du Monde des Livres. Il publie Le courage de la nuance. Il va à contre-courant de notre époque. Non, la modération, Yves, n'est pas un vilain défaut.
Un peu de nuance sur l'antenne d'RTL, c'est dans un instant.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres. Il publie Le Courage de la Nuance, c'est aux éditions du Seuil.
Bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous ce matin sur RTL. Vous publiez donc ce livre, hein, Le Courage de la Nuance, aux éditions du Seuil. Un essai de 130 pages où vous faites l'éloge de la modération. Le titre lui-même, Jean Birnbaum, interpelle Le Courage de la Nuance. Être modéré, c'est être faible aujourd'hui. Comment on est arrivé là ? Est-ce que c'est la faute aux réseaux sociaux ou c'est un peu un coupable trop facile ?
Bah c'est vrai que souvent, maintenant, quand on dit que quelqu'un est nuancé, on a l'impression qu'on veut dire qu'il est lâche, qu'il est tout doux, que c'est un doux rêveur, quoi, quelqu'un de tiède. Et moi, tout mon propos, c'est d'essayer de montrer que c'est exactement l'inverse, que dans le brouhaha des évidences, il n'y a rien de plus radical que la nuance, et que dans l'espèce de bordel, de violence ambiante, de climat irrespirable, et bah, quand on essaie de prendre les choses de façon un peu mesurée, ou en tout cas de voir les choses, pas forcément d'être tiède ou mou, mais de voir les choses dans leur contradiction, et ben souvent on fait preuve de bravoure.
Et les réseaux sociaux sont à l'origine de cela pour vous ?
En tout cas, ils sont un reflet un peu vénéneux, déformant, ils sont pas du tout responsables, mais en tout cas je pense qu'ils montrent à quel point on est dans un monde difficile et à quel point le clash a remplacé le débat, ou le combat a remplacé le débat, et à quel point on nous demande en permanence d'être rivés à un camp, de prendre parti dans un truc en noir et blanc comme ça en permanence. Et oui, je pense que les réseaux sociaux, une espèce de spirale vindicative et de meute, montre bien que quand on chasse en meute, on prépare un monde sauvage.
Jean-Bien, donnez-nous un exemple justement dans l'actualité de ces dernières semaines qui illustre bien le manque de nuances et ses conséquences sur nous pour qu'on y voit plus clair que ce soit concret.
Bah, par exemple, sur les questions qui m'intéressent, parce que j'ai écrit là-dessus avant, sur les questions du djihadisme, on a deux camps qui se font face et qui sont irréconciliables. On a d'un côté des gens qui disent les attentats n'ont rien à voir avec l'islam, alors que beaucoup de musulmans savent très bien que ça a à voir, bien sûr, et qu'il faut soustraire la foi musulmane aux fanatiques. Et puis d'autres gens qui disent l'islam, ça n'est que de la violence et les attentats, c'est évidemment le vrai visage de l'islam. Et donc, je pense que c'est un exemple très concret et très rude, très périlleux, qui permet de montrer que la position, la seule position non seulement juste intellectuellement, mais efficace politiquement, c'est de se tenir sur la corde raide et de refuser les deux extrêmes. Et donc, généralement, quand vous faites ça, quand vous refusez de voir le monde en noir et blanc, bah, vous avez contre vous les fanatiques de toutes les couleurs.
C'est-à-dire qu'en fait, la nuance est devenue politiquement incorrecte. C'est ça que vous me dites.
Oui, en tout cas, oui, elle est devenue quelque chose de subversif. Voilà, c'est que souvent, je pense qu'il faut voir ça comme quelque chose de radical qui dérange. Et d'ailleurs, on voit bien que sur les réseaux sociaux comme ailleurs, être dans une position tranchée, bah, ça fait jouir, c'est cool, c'est sympa, c'est agréable. Et donc là, c'est une facilité. Alors que si vous essayez d'être dans la complexité et de prendre les choses en tant qu'elles sont réelles, parce que le réel, il est toujours contradictoire. Bon, il y a le slogan de Macron en même temps, mais c'est vrai qu'au départ, justement, c'est devenu une espèce de voiture balai de la politique. Mais au départ, quand même, c'est quelque chose de fort. Effectivement, sur tous les sujets, toutes les polémiques, il y a toujours au moins deux choses qu'on doit pouvoir dire en même temps.
Mais vous parlez du en même temps. Et justement, on peut se dire, mais est-ce que la nuance, c'est pas aussi la tiédeur quelque part, et potentiellement le manque de courage? Le en même temps du chef de l'État, pour certains, a anesthésié le débat et fait monter la violence, par exemple avec l'épisode des Gilets jaunes.
Bah peut-être, mais peut-être que c'est en même temps a été un peu perverti. Au départ, c'était quand même l'idée de se tenir, comme je disais, sur la corde raide, de tenir les choses contradictoires ensemble. Ça, c'est très courageux. Et puis, on a vu à un moment donné que c'est en même temps devenait une espèce d'oscillation, de pas de girouette, mais d'opportunisme, un peu comme ça. Je disais voiture balai. Forcément, ça perd de sa substance et ça met les gens en colère.
Mais je prends un autre exemple aussi. Regardez la vague MeToo sur les réseaux sociaux. Il y avait une forme de radicalité qui a permis aussi de prendre conscience du phénomène de la violence envers les femmes. Est-ce que l'excès ne peut pas être salvateur? Est-ce qu'il ne peut pas aussi nous faire prendre conscience de grands phénomènes et de grands faits de société?
Si, c'est une vraie objection et c'est important. C'est-à-dire, je pense que toute indignation radicale, toute colère authentique demande une forme de radicalité et peut-être même d'arbitraire ou d'injustice au départ. Enfin, quelque chose qui peut... Mais en même temps, justement, j'ai la conviction qu'une des grandes leçons du XXe siècle, tous les combats qu'il y a eu contre le colonialisme, pour le féminisme, pour tout un tas de libération, ont montré que quand on est dans la radicalité pure et totale, en fait, on n'engendre que le pire, et que donc l'injonction absolue, même quand on est en colère sur le moment et qu'on a envie vraiment de tout casser, c'est d'essayer de concilier l'indignation et la lucidité, la colère et la clairvoyance.
Vous-même, vous avez levé le pied sur Twitter, Jean Bienhomme, c'est-à-dire vous y allez à pas compter, j'allais dire.
Oui, maintenant, c'est mon côté verveine, PEL, Twitter, tout doux maintenant, je ne veux plus du tout mettre les doigts. À un moment donné, je trouve ça beau, il y avait un endroit où on pouvait s'exprimer, où on rencontrait des gens qu'on rencontrait pas ailleurs, et on pouvait reculer, être bouleversé, se laisser s'exposer à des opinions qui n'étaient pas les siennes, et puis se laisser donc vraiment bouger dans ses positions. J'ai trouvé que depuis 3-4 ans, et je suis pas le seul, on est nombreux à étouffer, eh bien il y avait quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus crispé, de beaucoup plus vénéneux qui s'était déployé. Je cite cette phrase d'Albert Camus, nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison. J'ai l'impression que Twitter, c'est vraiment le royaume des gens qui ont absolument raison, qui croient avoir absolument raison.
Et en même temps, vous dites aussi, on est dans une mentalité de guerre civile, vous écrivez, parce qu'on n'ose plus admettre que quelqu'un peut avoir raison. Alors à votre tour, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne manquez pas un peu de nuance? Est-ce que le dialogue, c'est vraiment l'exception aujourd'hui? Vous dites même que c'est réservé au cercle des amis, de l'amitié, la modération.
Oui, j'ai l'impression que ça se réfugie dans les cercles privés, mais c'est comme ça. Vous savez, c'est des cycles dans les années 1930, du 20e siècle, dans les années de guerre froide. C'est des moments où à chaque fois, effectivement, il y avait cette ambiance de pré-guerre civile que j'appelle comme ça, parce que ça veut dire que tout d'un coup, chacun doit être rivé à un camp, et que dès que vous dites quelque chose, au lieu de vous demander ce que vous êtes en train de dire et de le dire sincèrement, vous vous demandez de qui je suis en train de faire le jeu de, et est-ce que je vais pas être soupçonné de faire le jeu de telle ou telle idéologie funeste en disant telle ou telle chose qui en fait est juste de la vérité, enfin qui relève de la vérité. Et quand vous commencez à flipper ou avoir peur de dire des choses qui sont simplement vraies parce que vous avez peur de faire le jeu de telle ou telle idéologie, par exemple d'extrême droite ou autre, ben là c'est qu'effectivement il faut commencer à s'inquiéter très fort. Je pense qu'il n'y a pas d'émancipation, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de progrès possible quand on met la vérité sous le tapis. Et ça, on est très nombreux à le ressentir physiquement, dans les rédactions, ailleurs, dans les relations amicales même. On voit bien que souvent on se retient à dire des de dire des choses pour pas être s'aventurer sur un terrain savonneux où on pourrait nous dire attention là tu déconnes tu et donc on nous demande de rester rivé à un camp, voilà, d'où tu parles, de qui tu es en train de faire le jeu de ça. Ce sont des questions typique d'une ambiance de pré-guerre civile, ou en tout cas de guerre froide civile.
On s'auto-censure, quoi, en quelque part, c'est ce que vous nous dites, quoi, pour ne pas être mal vu. Mais est-ce que ça, moins de nuances, ça affecte aussi l'humour ? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent de ne plus pouvoir faire certaines blagues. Est-ce que c'est dû aussi à une absence de nuances qui amène à une absence de second degré, peut-être ?
Oui, bah ça, c'est une des choses sur lesquelles j'incite beaucoup. J'essaie de montrer que la nuance, c'est pas du tout un truc théorique. C'est enraciné dans des choses très concrètes, d'expériences ordinaires, la franchise, une franchise hardie, l'humour, l'inconscient, enfin, pour le fait qu'on n'est pas transparent à soi-même, que c'est compliqué, qu'on est mu par de mauvaises pulsions. Et l'humour, c'est central. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est marrant, j'avais assisté à un... Je pense qu'il faut faire gaffe, enfin, il faut faire une distinction entre l'humour et l'humour authentique et le sarcasme haineux. J'avais assisté à un meeting de Dieudonné en 2004, c'était il y a très très longtemps, à une époque où il était vu encore comme un humoriste, bon, qui avait des petites pulsions politiques comme ça, mais gentil. Et en gros, j'avais été frappé par ça. Je voyais bien que ce qu'il déployait sur scène, c'était au Palais des Sports, Porte de Versailles, à Paris. Et ce qu'il y avait sur scène, c'était pas du tout de l'humour, c'était vraiment un sarcasme haineux. Et ce qu'il y avait dans la salle, c'était pas non plus la joie du rire authentique, du rire de liberté, c'était à nouveau une espèce de spasme vindicatif et vraiment poisseux. Et je pense que l'humour authentique, l'humour vrai, c'est un humour de liberté qui va avec la nuance. Parce que quand vous avez vraiment de l'humour et que vous êtes dans un humour libre et sincère, bah forcément, vous pouvez pas totalement coïncider avec vos préjugés, avec vous-même. Et donc, vous êtes déjà sur le chemin d'une certaine nuance.
Ouais. Alors, il paraît que quand quelqu'un vient vous voir, Jean Birnbaum, qu'il est déprimé, vous essayez toujours de lui trouver un petit texte nuancé pour lui remonter le moral. Alors, ce matin, nos auditeurs, nos auditrices, quel texte vous leur conseillez à ceux qui, ils sont nombreux, qui sortent un peu déprimés de cette trop longue période de restriction, on pense notamment aux jeunes.
C'est mon côté vieux con, je vais vous donner un texte ancien, mais qui a été à la fois un chef-d'œuvre, qui est un chef-d'œuvre et qui a été un best-seller, Les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, que je cite beaucoup dans le livre. Les fragments d'un discours amoureux, c'est magnifique, c'est une espèce de portrait de l'amoureux en proie à ses figures, dans tous ses états, l'attente, la lettre. Il y a un passage magnifique sur la lettre d'amour où dit la lettre d'amour, en gros, c'est je ne te dis rien, mais ce rien, c'est à toi que je le dis. C'est juste, voilà, je veux juste te dire que je t'aime. Et c'est intéressant parce que la parole de l'amoureux, pour Barthes, c'est la parole éparpillée, chancelante, qui vient déferler dans votre tête comme ça et qui forcément doute, tâtonne. C'est exactement l'inverse de la parole de l'idéologue, de militant. Il oppose la bouffée de langage amoureuse, la bouffée comme ça qui vous prend, qui vous submerge, et puis la brique du militant, le langage briqué, c'est-à-dire l'idéologue ou le bourgeois bien-pensant, qui est fermé sur ses préjugés. Donc les fragments d'un discours amoureux, c'est à la fois un texte hyper tendre, hyper beau, qui réchauffe le cœur et qui vous met lui aussi sur le chemin d'une nuance radicale.
Avec aussi un vocabulaire riche, et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'aussi on est moins nuancé parce que votre vocabulaire s'est un peu appauvri, Jean Birnbaum ?
Oui, c'est une question centrale. Albert Camus disait, nous referons des dictionnaires libres, et Georges Bernanos, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi, oui, chrétien, royaliste, et qui a fait des choses magnifiques, disait, nous referons des mots libres pour des hommes libres. Je pense qu'effectivement, dans tous les moments où on sent que les choses nous échappent, qu'on est tout que la parole sincère n'est plus possible, que la franchise devient périlleuse, et ben la première des choses, c'est de reprendre le langage à zéro et de le libérer.
Merci beaucoup Jean Birnbaum. Donc fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, et donc j'ajoute la lecture de votre livre Le courage de la nuance. C'est un essai vraiment passionnant, c'est court, c'est agréable à lire et puis ça fait du bien. Bonne journée à vous, bonne journée.
Merci
à nos auditeurs, bonne journée.
Être radical dans la nuance, c'est faire preuve de bravoure, nous a dit au début de cet entretien Jean Birnbaum. Merci infiniment à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Benjamin, on vous retrouve sur rtl.fr dimanche dès midi pour le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, avec la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen.
Et on essaiera de faire preuve de nuance.
En effet, c'est le moment ou jamais. Nous sommes d'accord. Dans un instant, Cyprien Signy. Je ne sais pas s'il surfe dans la nuance, mais ça se passera à Roland-Garros. Ouais. Et avec bonheur, à tout de suite.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Alors, nous allons surfer totalement sans nuance avec les performances des Bleus à Roland-Garros.
Et là, j'ai envie de vous dire... car ça y est.
Plus aucun Français dans la course à Roland-Garros. Chez les hommes comme chez les femmes, le pire bilan français depuis 1968.
Encore plus vite que d'habitude, dites donc. La vérité, les gars, c'est...
Champion du monde.
Ah ouais. Pourtant, là, il y avait tout pour réussir. Hein. France Télé en fusion sur les audiences.
Merci d'être très, très nombreux. On bat des records d'audience depuis le début de ce Roland-Garros. Donc, un grand merci aux joueurs, bien sûr, et à vous, téléspectateurs.
Ouais, et surtout au télétravail, hein, oui. Où tout le monde fait semblant de bosser devant la télé, à la maison. En plus, il y a un peu de public cette année. Bon, alors, il y a couvre-feu aussi, du coup.
Il y avait des matchs en 5-7 qui étaient formidables et à partir de 20h30, on a commencé à faire passer des messages dans le stade demandant aux gens de retourner vers leur véhicule pour être chez eux à 21h.
Et rater la fin du match ou alors la voir à la télé sur une chaîne payante que personne n'a. Bref, un peu particulier quoi. Heureusement que quoi qu'il arrive, à Roland, comme on dit dans le jargon, chaque année il y a... Les experts tennis. Vous aimez nos experts ballons ronds ? Vous allez adorer les experts petites balles jaunes. Hier, Gaël Monfils face à Imer. La balade pour Monfils, la monf, comme disent les experts.
Il est plus fort que Michael Imer du fond du court, ça on en est sûr. Intrinsèquement, je pense que Gaël est plus fort. Oui. Les voyants sont au vert.
Ouais, tous les voyants sont au vert. Hein. En plus...
Imer qui n'a jamais franchi le deuxième tour ici à Roland-Garros.
Oh bah alors, et en plus la maman de Monfils est là et ça... Oh, bah
des retrouvailles qui pourraient être, selon Sylvette, le déclic que son fils attendait depuis de longs mois.
Ah bah ouais, le déclic, hein. Imperdable ce match. Hein.
C'est fini pour Gaël Monfils. Wow.
Alors. Incroyable! Et la veille, Caroline Garcia avant son match, avis d'expert.
Ça reste un match quand même tellement à la portée de Caroline. On la sent sereine. Je pense quand même qu'elle a les choses en main.
Une Caroline Garcia rayonnante. Hein.
Rayonnante. Oh, hein.
Et puis, elle rutile.
Ah oui, la santé bien, bien, bien.
Peut-être un très beau coup à jouer cette année.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Elle a une super chance cette année pour aller loin, même en finale, je dirais.
Non, bah, en finale, bah oui, carrément. Et une heure plus tard.
L'aventure est déjà terminée pour Caroline Garcia.
Mais c'est pas vrai! Mais non, impossible qu'il se fasse sortir. Et finalement, vous savez, à Roland Garros, hein, c'est tout le temps pareil.
Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français.
Bon, après, ça me fait mal au cœur de vous laisser comme ça. Alors attention, c'est cadeau. Faites attention, préparez-vous. Vous n'êtes pas habitué. Document rarissime.
La première balle de Noah est bonne. Retour de Villander. Elle est faite. Il a gagné.
On n'est pas habitué, ça fait très peur, j'avais prévenu. 83 quand même.
Ouais, ça donne des frissons quand même.
Bah oui, c'était il y a tellement longtemps.
Dites-moi, on vous retrouve ce soir à 19h15 avec toute votre équipe pour
défaire le monde. Absolument, ça va être formidable.
Mais bon, on est ravis. Merci infiniment, cher Cyprien. On a un petit peu de temps pour évoquer cette météo qui est assez gratinée. Oui. Et la présence de nos orages, Louis Bonin.
Pas sûr qu'on puisse jouer facilement et tout au long de la journée sur Roland-Garros, effectivement, puisque les orages vont se succéder. Il y en a encore un en ce moment. Tout ça va petit à petit se calmer. Puis d'autres vagues orageuses vont remonter, circulant du sud-ouest vers le nord-est. Il y a un axe principal entre les Pyrénées et le Massif central, l'Île-de-France et la frontière belge. C'est là où, tout au long de la journée, les orages seront les plus fréquents. Plus on ira vers l'ouest, notamment vers la Bretagne, plus on échappera à cette dégradation. Il y aura même du soleil sur la Bretagne. Même chose dans l'est, entre l'Alsace et la Méditerranée. Ça restera plus calme, plus ensoleillé, sauf en montagne, où là aussi, il y aura un petit risque d'orage. Beaucoup de soleil près de la Méditerranée. Et sous ces averses orageuses, attention à la grêle, forte rafale de vent, des inondations localement pendant quelques minutes, hein, parfois, mais ça peut être dangereux. Et puis les températures, alors dans la moitié ouest, ça baisse. 16 à 19 degrés sur la Bretagne, 19 à 21 ou 22 degrés dans les autres régions de la moitié ouest, et encore dans l'est, entre 24 et 30 degrés avant les orages.
Vous êtes prévenus. Merci beaucoup, Louis Bonin. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la colère de ces clients qui attendent toujours le remboursement de leur voyage prévu l'an dernier.
Les tours opérateurs font traîner les choses et la patience a des limites.
On nous a annulé notre voyage, pas moi qui l'ai annulé. Le carburant n'a pas été cramé, ils ont le temps de se retourner bien avant. Donc, l'argent existe.
Les numéros d'urgence pas totalement rétablis hier soir dans le Sud. Reportage à suivre. Et puis la France qui met fin provisoirement à sa coopération militaire avec le Mali suite au coup d'État.
RTL Matin.
Mais d'abord, direction l'Isère. C'est une usine qui a plus d'un siècle d'existence. Elle est coincée entre les montagnes au sud de Grenoble. Elle fabrique du silicium, un métal utilisé dans les batteries et les téléphones portables. L'entreprise devrait fermer. La décision a été prise. Mais les 130 salariés ne baissent pas les bras au sens propre. Depuis quelques mois, ils travaillent deux fois plus pour prouver à leurs dirigeants qu'à leurs yeux, cette décision de mettre la clé sous la porte n'a aucun sens. Le contraire de la grève pour sauver son boulot, c'est un reportage de Serge Peillot.
Devant l'usine Ferropen de Livet-et-Gavé, il n'y a pas de pneus en feu, pas d'ouvriers qui menacent de faire sauter le site. Non, pour tenter de sauver les 129 emplois menacés, Tous ont décidé de travailler encore plus pour montrer à leurs dirigeants que l'entreprise est rentable. Cédric Aronica travaille depuis 17 ans à Ferropem.
Il faut relever les manches et puis y aller, quoi. On travaille énormément en ce moment et donc on montre que vraiment on est compétitif, que l'usine est viable et qu'ils se sont trompés tout simplement. Sur les trois derniers mois, donc on a fait pas mal de bénéfices. Donc la production a été bonne, le métal qui sort est bon et le prix de revient, et ben on est compétitif, quoi. Donc on montre là justement qu'ils se trompent complètement. Et c'est pour ça qu'on baissera pas les bras.
Mourad Moussaoui, responsable force ouvrière de l'usine.
Imaginez, on aurait fait un choix tout autre. On aurait décidé de casser l'usine, de faire la grève et tout ça. Tout ce qu'on a prouvé à tout le monde, on n'aurait pas pu le prouver. On serait passé à côté de quelque chose de géant, j'allais dire. Et ça serait même dommage, ils auraient pu dire, vous avez vu, tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Mais là, ils ne peuvent plus le dire. On les a pris à contre-pied.
Le combat des Ferropem n'est pas encore gagné. Une fermeture du site transformerait la vallée de la Romanche en vallée morte.
Un reportage signé Serge Puyot. Une bonne partie du pays encore sous la pluie et les orages aujourd'hui. Les orages qui ont à nouveau fait des dégâts dans cette ville de Seine-et-Marne, au nord-est de Paris, la commune de Thieux. Le même cauchemar à 24 heures d'intervalle. Un torrent de boue avait traversé la ville en contrebas mercredi soir. Les habitants avaient passé la journée d'hier à nettoyer et ça a recommencé dans la soirée. Les habitants sont sous le choc.
Chez Muriel, la dame qui habite juste dans le virage. Vous voyez, il y a une poubelle là, où il y a les messieurs un peu plus bas.
Là, c'était beaucoup plus fort hier. La véranda, la porte, avec la pression de l'eau,
elle a pété.
Oh, ouais. Le temps de compter jusqu'à 20, il y avait ça d'eau déjà, on n'a pas pu se relever.
Ah non, mais à cette ampleur, c'est une catastrophe. Non, non, là.
J'ai jamais vu ça depuis qu'on est ici.
On a déjà eu des épisodes, mais jamais cette puissance. Là, des flots, mais c'est catastrophique, là, qui dévalait des champs. Jamais la cour de la mairie a été remplie comme elle a été remplie là, mais c'est une cata, quoi.
Des propos d'habitants recueillis sur place par Valentin Boisset. Soyez prudents sur les routes, notamment en Ile-de-France.
RTL 8h03, Jean Castex préside en ce moment même une réunion de crise pour faire le bilan de la nuit après la panne d'Orange.
Et vérifier ainsi si le retour à la normale promis par l'opérateur est confirmé. La paralysie des numéros d'urgence mercredi pourrait avoir causé au moins 4 décès, dont celui d'un enfant de 2 ans et demi en Vendée, et des difficultés subsistaient hier dans le Var et les Bouches-du-Rhône, Hugo Hamelin.
Oui, des anomalies qui se sont poursuivies jusque tard dans la soirée pour ces deux départements où le téléphone sonne d'habitude en continu, 1500 appels par jour pour les sapeurs du lieutenant Guyot.
Il y a des gens qui nous appelaient en nous disant « j'essaie de vous joindre, je n'arrive pas à vous contacter ». La conversation parfois se coupait.
J'imagine que la crainte du pompier, c'est de rater une intervention, d'avoir une victime à cause de ce genre de problème technique.
Ça a été notre première réaction, essayer de vérifier avec le centre 15, avec les forces de l'ordre, s'il n'y avait pas d'intervention pour lesquelles nous n'avions pas été alertés.
Pas de conséquences dramatiques jusqu'ici, mais il faut rester prudent. Les pompiers plaident pour un numéro de téléphone unique à l'image du 911 américain qui regroupe pompiers, SAMU et police, voire même une appli sur smartphone.
C'est bien évidemment des applications qui puissent envoyer de la data, que ce soit des photos d'intervention, de la géolocalisation, pour être plus rapide sur des opérations de secours.
Hier soir, le standard était surtout encombré par des coups de fil pour demander si le numéro des pompiers fonctionnait encore, juste au cas où.
Un reportage d'Hugo Hamelin. L'horreur, hier en plein après-midi, en pleine rue à Metz, un homme a tiré sur sa femme avant de retourner l'arme contre lui. Il est décédé, l'épouse. Elle est hospitalisée dans un état grave. Elle avait porté plainte il y a quelques années contre lui pour violence. Le couple qui a 3 enfants était en instance de divorce. Attention, si vous prenez les transports en commun ce matin à Lille, aucun bus ni tramway ne circule dans la métropole. La ligne 2 du métro est aussi perturbée à cause d'une grève des agents du réseau Ilévia.
Dans un instant, quand les tour opérateurs traînent des pieds pour rembourser leurs clients, est-ce que ça vous surprend? Peut-être pas, on va y revenir dans un instant.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Plus d'un an après l'annulation de leur voyage à cause de la pandémie, de nombreux clients n'ont toujours pas revu la couleur de leur argent.
Ils bénéficient d'un avoir valable 18 mois et peuvent ensuite exiger son remboursement. Mais depuis la crise, 20% des agences de voyage sont en difficulté. Alors certains s'inquiètent, Nerissa Emani.
Oui, Pierre devait partir en Thaïlande en avril 2020, mais le séjour a été annulé par son agence de voyage en ligne à cause de la pandémie. Il a donc reçu en échange un avoir, 2600 euros, dont il attend toujours le remboursement.
Après des heures d'appel, on a réussi par miracle à joindre quelqu'un qui nous a dit « pas de soucis, dans un mois on vous rappelle et vous serez remboursé ». Ça fait 2 mois et demi et rien ne bouge. Une décision gouvernementale fait qu'au bout d'un an et demi, la compagnie doit vous rembourser, vu les conditions exceptionnelles. et que là, la galère recommence.
2600 euros, c'est également la somme déboursée par Christophe qui devait partir au Costa Rica l'an dernier. Mais cette fois, l'agence de voyage et la compagnie aérienne se renvoient la balle.
On nous a annulé notre voyage, pas moi qui l'ai annulé. On n'a pas consommé au mois de mars. On nous dit, bon, votre voyage ne s'effectuera pas. Il était pour août. Donc le carburant n'a pas été cramé. Ils ont le temps de se retourner bien avant. Donc l'argent existe.
Mais Christophe ne perd pas espoir. Malgré des dizaines de courriers, il a reçu hier une promesse de remboursement dans les 8 jours à venir.
Nerissa Emani, près de 2 semaines après le coup d'État au Mali, le 2e en 9 mois, Paris met sa menace à exécution et annonce que l'armée française fera désormais cavalier seul dans la région, dans l'attente de garanties sur un retour des civils au pouvoir. Des élections sont d'ailleurs prévues en février, Brice Dugénie.
Oui, fini les patrouilles et les opérations anti-djihadistes en commun dans le désert malien, comme par exemple Takuba, ces forces spéciales françaises venues combattre et former les militaires maliens sur le terrain. La France met également fin jusqu'à nouvel ordre à ses missions de conseil et de formation. Paris veut ainsi mettre la pression sur le nouveau président putschiste, le colonel Goïta, pour qu'il donne des garanties sur une transition politique démocratique et le retour au pouvoir d'un gouvernement civil. La fin des opérations conjointes ne veut pas dire que la France se retire du Sahel, l'opération Barkhane se poursuit, ainsi que les missions menées aux côtés d'autres pays. Les collaborations franco-maliennes reprendront dès que les doutes auront été levés sur les intentions du nouveau maître de Bamako.
Brice Dugénie. La mort d'un ténor du barreau aux États-Unis, Francis Lee Bailey, est décédé à l'âge de 87 ans. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il avait largement contribué à l'acquittement d'O.J. Simpson, la star américaine du football, jugée pour le meurtre de sa femme en 95. C'est lui, c'est cet avocat qui avait prouvé qu'un des enquêteurs avait tenu à son endroit des propos racistes.
8h10.
Roland Garros 2021.
C'est sur RTL.
Ne cherchez plus, il n'y a plus de Français porte d'Auteuil.
Une débâcle, une bérésina au bout de 5 jours de tournoi seulement. Le dernier mince espoir reposé sur les frêles épaules de Richard Gasquet qui a été éliminé par Rafael Nadal. Cruel bilan dressé par Henri Lecomte en exclusivité pour RTL au micro d'Isabelle Langer.
On est tous sous le choc, mais je pense qu'arriver à un moment, on doit être lucide par rapport à ce qui se passe. Ce n'est pas une surprise, on le savait. On ne travaille pas assez le mental, on n'est pas fort, on est faible. Et puis, on manque de leader. On a besoin de ça au tennis, on n'en a plus. On avait la meilleure structure au monde, on avait à chaque fois 15, 20 joueurs dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Je crois qu'on s'est endormi, on n'a pas voulu aller voir ce qui se passait ailleurs, on n'a pas voulu analyser, on n'a pas voulu aussi comprendre, on n'a pas voulu aussi chercher la performance. Voilà, c'est la suite logique. Il faut revenir à la base. Il ne faut pas penser que le tournoi du Grand Chelem. On pense que grâce à Roland Garros, tout le monde va aller jouer au tennis. C'est faux. C'est nos clubs, c'est les enfants, c'est les parents, c'est la passion du sport. Ça, on l'a tout perdu. On n'a plus ça. Tant qu'on n'arrive pas à faire transpirer ce genre de choses, ça va devenir très très compliqué.
Il faut s'attendre un peu à une disette là pendant quelques temps.
Oui, je pense. Je pense.
Bon, pas très optimiste. Non, hein, Henri Lecomte, qui fait d'ailleurs une émission tous les jours sur sa chaîne YouTube en replay. Vous avez compris le jeu de mots. Il était au micro RTL d'Isabelle Langer.
Et c'était le journal de Jérôme Florin. Nous nous retrouvons à 9h pour le point sur l'actualité. Oui. À tout à l'heure.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Allons voir ce qui se passe du côté des intox, des fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, non, la France ne touchera pas l'argent du plan de relance européen en contrepartie de la réforme des retraites.
Hein. Eh oui, c'est une intox qui perdure, hein. Une intox technique ourlée de politique et de préoccupations électorales. Depuis l'annonce d'un plan de relance européen afin d'aider les 27 membres de l'UE à faire face aux conséquences économiques de la crise du Covid, on le sait que la France touchera 40 milliards d'euros. Hein. Oui. Certains affirment que cette somme ne sera touchée que si la France adopte une nouvelle réforme des retraites, hein, si polémique, on le sait. Alors, une rumeur défendue en mois de septembre par des élus de la France insoumise et par Marine Le Pen, et d'un coup, cette rumeur s'est évanouie et nous fait un petit retour depuis hier, depuis que le chef de l'État, en fait, a annoncé dans le Lot que la réforme des retraites ne pourrait être reprise telle qu'elle. Sur les réseaux sociaux, on prétend que c'est faux, que cette réforme se fera parce que l'Europe l'a décidé, que le gouvernement français est manipulé par Bruxelles. Et en fait, non, tout simplement, la réforme des retraites n'est pas conditionnée au futur versement d'argent du plan de relance.
Alors en matière de réforme, il ne faut pas confondre recommandations et contraintes.
Et oui, décembre 2019, dans toute la France, de nombreuses manifestations contre la réforme des retraites défendue par le gouvernement d'Édouard Philippe. Des grèves dans les transports. Noël se vivra-t-il à pied ? Alors d'un coup, ça paraît tellement loin hein, dans un monde alors sans Covid. À l'époque, les instances européennes voient plutôt d'un bon oeil hein, cette réforme. Parce qu'il faut le dire, chaque année, la Commission dresse une liste de recommandations à l'adresse des pays membres. Un document qui n'a aucune valeur contraignante, mais qui vise, par les pistes qu'il esquisse, à assurer, je cite, le fonctionnement et le développement du marché commun. Et depuis 2013, à l'exception de 2017, le système de retraite français est évoqué et considéré comme nécessitant de faire l'objet d'une réforme. Mais il n'y a rien d'obligatoire, en fait. Il y a donc confusion dans les termes. Fin avril, d'ailleurs, la France a remis à la Commission européenne ce qu'on appelle le plan national de relance et de résilience, dans lequel le gouvernement détaille les axes de dépenses des futurs 40 milliards et la réforme des retraites, eh bien, n'y figure pas. Bruno Le Maire, dans une déclaration le 27 avril, confirme hein, cette absence et le regrette pour sa part. Un point de vue, dit-il, personnel.
Les préconisations de la Commission européenne sont souvent prises au pied de la lettre.
Mais oui, c'est le problème. C'est le cas d'une récente intox prétendant que la Commission souhaite repousser l'âge de la retraite à 70 ans. En fait, il s'agit d'un rapport d'analyse de prospective et non d'une injonction qui peut, bien sûr, inspirer les dirigeants, mais en rien une obligation. Alors, l'Europe fournit de rapports hein, qu'il est facile de détourner. C'est un vrai magasin à bonbons pour faiseurs d'intox.
Merci beaucoup, Jean-Mathieu Pernin. Je reprendrai un petit sachet, s'il vous plaît. Voilà, dans un instant, on va retrouver avec nous Sophie Jousselin pour notre brigade et la panne de nos numéros d'urgence.
RTL. Here we go together. RTL. Nice cool breeze, big palm trees. I tell you, like I'm off in a net. Toujours avec vous.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Il est 8h16, on revient avec la brigade de l'actualité sur la panne du réseau d'Orange de mercredi soir. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Cette panne nous a fait comprendre que finalement les numéros d'urgence sont des numéros comme les autres, Sophie.
Oui, derrière le 15, le 17, le 18 et même le 112 se cachent des numéros fixes à 10 chiffres.
Et oui.
Quand vous les appelez, vous êtes dans un premier temps géolocalisé, puis dirigé vers le service de pompiers ou la police ou le SAMU le plus proche de vous. En réalité, il y a un logiciel qui traduit le numéro d'urgence dans sa forme courte en un numéro, tout ce qu'il y a de plus habituel.
Donc s'il y a une panne de réseau, ces numéros essentiels sont touchés comme les autres.
Exactement, et d'ailleurs on a beaucoup parlé hier des numéros d'urgence qui étaient injoignables, hein, à juste titre, mais en même temps des numéros de particuliers étaient affectés de la même façon.
Alors on peut s'étonner quand même qu'il n'y ait pas plus de sécurité pour ces numéros d'urgence.
Mais le réseau est sécurisé, Orange l'a confirmé hier, les systèmes sont redondants, c'est-à-dire que lorsqu'un équipement est tombé en panne, un autre aurait dû prendre le relais. Il y avait même 6 équipements disséminés sur le territoire prêts à se secourir les uns les autres, mais les 6 sont tombés en panne en même temps, c'est incroyable, inimaginable. Oui. L'opérateur évoque un problème de logiciel, on n'en sait pas plus pour l'instant.
Sophie, il n'a jamais été envisagé que ces numéros aient leur propre infrastructure, on va dire, ultra sécurisée ?
Non, parce qu'à l'origine, le réseau téléphonique n'était pas si complexe. Oui. Il n'y avait que France Télécom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est le réseau d'Orange qui achemine ses appels. Mais au fil du temps, avec l'arrivée de la concurrence, il a fallu interconnecter plusieurs réseaux. On a rajouté des briques technologiques ici et là. Tout est devenu très compliqué. Et les numéros d'urgence ont suivi le mouvement. Mais aujourd'hui, certains experts, surtout après ce qui s'est passé hier, estiment que ces numéros devraient avoir leur infrastructure dédiée. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
Est-il envisageable de moderniser ce système en utilisant les nouvelles technologies?
Oui, et c'est ce que préconise notamment la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Par exemple, utiliser une application dédiée sur son smartphone pour joindre les services d'urgence ou utiliser les réseaux sociaux, les messageries instantanées, donc multiplier les canaux en utilisant le réseau fixe ou mobile pour qu'en cas de panne, eh bien, il y en ait au moins un qui fonctionne.
Si on n'avait qu'un seul numéro d'urgence, par exemple le 112, est-ce que ça ne simplifierait pas les choses?
Eh bien si, hein, c'est ce que disent les défenseurs du 112. Certes, ça n'empêcherait pas les pannes de réseau. En revanche, ça éviterait de mettre en place 400 numéros alternatifs et ces défenseurs du 112 donnent l'exemple des Pays-Bas où il n'existe que le 112. Il y a 2 ans, il y a eu une grosse panne de réseau comme chez nous avant-hier. Le 112 a été remplacé par un seul numéro alternatif.
Merci beaucoup de toutes ces informations Sophie Jousselin. Dans quelques instants et même d'ailleurs tout de suite, on va retrouver le bon docteur Simès.
RTL Matin,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous faites l'apôtre des céréales complètes. À quel point sont-elles meilleures pour notre santé que les céréales non complètes?
C'est le raffinage qui est en cause. Une céréale raffinée, c'est une céréale à laquelle on enlève son enveloppe de son et son germe. Et là, on fait d'une pierre deux mauvais coups. D'une part parce que l'enveloppe regorge de fibres, d'autre part parce que son germe est truffé de micronutriments. Ne reste alors que l'amidon. Je vais vous donner quelques chiffres. En passant du blé complet au blé raffiné, on perd les trois quarts des fibres, un quart de protéines et une ribambelle de minéraux et de vitamines. La vitamine E, moins 95%, dommage parce que c'est un puissant antioxydant et l'une des meilleures alliées d'un bon système immunitaire. Les vitamines B, elles aussi, sont quasiment toutes sacrifiées alors qu'elles sont impliquées dans la production d'énergie et nous aident à combattre la fatigue. Le fer, le magnésium, le phosphore, le calcium chutent également dans des proportions spectaculaires. C'est la déglingada totale. Alors c'est un non-sens parce que toutes ces bonnes choses indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, il va falloir aller les chercher ailleurs ensuite.
Mais en quoi le produit complet est-il meilleur ?
Je vous l'ai dit, de l'amidon, c'est-à-dire du sucre. Et au passage, on a perdu tout ce qui est rassasiant. Ce n'est pas pour rien que les nutritionnistes encouragés par Santé publique France, et puis moi avec ce matin, plaide pour la consommation de céréales complètes parce que derrière, il y a la prévention de maladies chroniques comme le diabète et l'obésité.
Michel, peut-on faire confiance à l'étiquetage des produits dits complets ?
Pas toujours, et c'est un problème. Certains produits relèvent du complet reconstitué. Je m'explique, ces produits sont fabriqués avec de la farine raffinés, on y rajoute des fibres et du son, ils ne sont donc pas naturellement complets et en conséquence, leurs vertus digestives ne sont pas aussi miraculeuses que les produits naturellement complets. Mais bon, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, faites la démarche des céréales complètes, vous rendrez un grand service à votre organisme et à la santé publique.
Merci beaucoup Michel et on se retrouve dimanche à 9h15 avec votre petite équipe.
À dimanche pour l'hebdo avec la petite bande, à 9h15.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Bernard Lehu. Laetitia Colombani publiait il y a 4 ans La Tresse, un roman devenu un formidable phénomène d'édition, vendu à près d'1,5 million d'exemplaires. Elle transformait l'essai avec son livre suivant, Les Victorieuses, autre best-seller. Laetitia Colombani publiera la semaine prochaine son troisième livre, Le Cerf-Volant, toujours une histoire vibrante de femmes solidaires en lutte pour leur liberté. Laetitia Colombani, invitée exceptionnelle de Laissez-vous tenter, c'est à 9h.
Il est 8h22, nous sommes vendredi, c'est donc notre débat d'éditorialiste que nous allons retrouver dans quelques instants et on va revenir largement sur le Tour de France que vient de commencer le président de la République. Vous remarquerez que Marine Le Pen n'est jamais loin non plus.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Il est 8h25, Sophie Dravinel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter politique au Figaro. Je salue Nicolas Domenac, bonjour cher Nicolas, éditorialiste à Challenge.
Bonjour.
Le président Macron est en campagne, à la campagne d'ailleurs, on a tous vu les images. Et alors il y a une forme de course évidemment qui est lancée, puisque Marine Le Pen elle aussi fait une sorte de Tour de France. On a l'impression qu'on a totalement oublié les régionales et qu'on est déjà dans l'affrontement que l'un et l'autre veulent dans un an exactement. C'est parti, Nicolas Domenac.
Ça s'est accéléré plus exactement parce que on pourrait dire que ça n'a jamais cessé. Vous savez, quand un président de la République arrive à l'Élysée, qu'il songe à se représenter, d'ailleurs il y songe le plus souvent, eh bien, il prépare cette échéance-là. Et vous pouvez noter d'ailleurs que les déplacements récents qu'a fait le président de la République, c'était Pont-Saint-Esprit, d'abord près de Troyes, qui était une ville avec un maire macroniste, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu, Nevers, qui était avec un maire macroniste, et puis Saint-Cyr-la-Papille avec un maire macroniste. On comprend qu'il est cherché à nous envoyer des cartes postales de sérénité, d'optimisme retrouvé, puisque nous en avions besoin, et au fond, au moment où il bénéficie, contrairement à nous qui sommes sous les orages un peu accablants, il bénéficie d'une éclaircie pour lui salvatrice.
Une forme de réassurance, Sophie Dravinel.
Oui, un début de Tour de France avec un faux plat, pas trop compliqué. Effectivement, comme l'a très bien dit Nicolas Domenac, et dans le Lot, ce département où on vote le plus, où il y a des criminalités très faibles, où la population est radicale socialiste, modérée, des retraités, ça n'est pas très compliqué comme début de campagne, mais c'est quand même aussi le début de l'été, le moment où les Français reprennent espoir et où sa cote de confiance à lui augmente nettement. On l'a vu dans les sondages, il a quand même pris 5 points dans l'appréciation que les Français ont eue de la gestion de la crise. Donc il est plutôt dans une bonne position et il en profite évidemment cet été, en se gardant évidemment de dire qu'il est en campagne. Jamais vous n'entendrez 2022 dans sa bouche. Bien évidemment, sûr. Il prend bien soin de ça parce que son opposition l'attaque. Mais il s'en fiche. Comme d'ailleurs, il a dit hier qu'il se fiche de l'image qu'il peut avoir d'être le président des riches. Il est sans complexe, il veut montrer qu'il est le maître des horloges, mais l'automne se rappellera à lui.
Alors ça, c'est sûr que l'automne se rappellera à lui d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pour quand, en fait, les étapes de montagne, si on reste dans la métaphore du Tour de France?
Ah bah, ça va venir, de toute façon, parce qu'il ne peut pas en rester comme ça, à des étapes de plat, comme vous dites, où au fond, son public...
Le faux plat,
mais quand même, le public lui est largement acquis. Hein. Mais on a redécouvert qu'il sait faire, quand même, les bains de foule, alors surtout qu'ils ne sont pas bouillonnants. Hein, il aime ça, il aime aller au contact. Il se surveille quand même, hein, sans complexe. Il se souvient qu'il a dérapé à plusieurs reprises, qu'il ne faut pas qu'il recommence, qu'il retombe dans les petites phrases pleines de morgue et d'arrogance. C'est-à-dire, il aime bien être au contact chaleureux, comme ça, au corps à cœur, mais il se surveille quand même.
Il n'a pas peur non plus du rapport de force. Hein,
non, hier, on l'a vu. Il était avec un Français qui lui a reproché sa politique, sans d'ailleurs savoir très très bien l'argumenter. Alors évidemment, le président est tout de suite monté au créneau en lui disant « Oui, mais alors vous me parlez de tel impôt, on a réduit les impôts, vous me parlez de telle taxe, machin, etc. » Il lui a vertement répondu, assez nettement. L'autre était un petit peu en retrait, forcément. Donc les Français vont devoir apprendre à affûter leurs arguments quand ils se trouvent face à lui. Mais il n'a pas peur de ça, il n'a pas peur d'avoir des mots francs. Et je pense que là, il prend un temps d'avance sur ses concurrents.
Alors, en même temps, on a quand même l'impression que Marine Le Pen le marque à la culotte dans tous les sens du terme, si vous m'autorisez cette expression inélégante, puisqu'elle aussi, elle est en plein Tour de France.
Absolument.
On a l'impression du... Enfin, alors, le président de la République, c'est le petit Pousset qui est en train de mettre ses petites pierres blanches dans la forêt.
Et elle arrive avec les gros rochers.
Oui, c'est exactement absolument, ça.
Absolument, pour marquer son chemin, et elle le marque aussi très nettement. Et d'ailleurs, on a vu un sondage qui a été... dont l'écho s'est fait l'écho hier, les échos, où elle prend... très fortement, y compris chez LR, ce qui est quand même assez important et notable. Et elle anticipe, elle, vous parliez de cette époque qui allait nous porter jusqu'à la présidentielle, mais il y a les régionales. Et évidemment, si Marine Le Pen prenait une ou deux ou trois régions, on a bien vu ce sondage qui marque pour Thierry Mariani une avance nette en PACA. Les choses, son chemin serait bien plus ouvert avec deux ou trois régions dans son escarcelle.
Alors, les régionales vont apporter une autre couleur au climat de la présidentielle.
Oui, mais il y a quand même un combat idéologique entre eux sur la thématique de campagne, à la fois pour les régionales et pour la présidentielle. Oui. C'est-à-dire que Marine Le Pen se mobilise pour que le débat se porte sur l'insécurité et l'immigration. Parfois, elle n'a même pas besoin de se mobiliser. Je veux dire, l'actualité parle pour elle. Alors que le président de la République, lui, il essaye de mettre le débat sur la croissance, la relance, et il bénéficie de quoi ? Il bénéficie du plan de relance, qui est quand même un super avantage.
Oui. Alors, ils se sont choisis l'un l'autre, on l'a bien compris, Marine Le Pen et le président Macron. J'étais assez impressionné de l'avenue de Xavier Bertrand cette semaine dans notre studio pour son interview avec Alba Ventura, parce que du coup, on a senti qu'il était très présent, très dynamique, et que une victoire, s'il l'obtient dans les Hauts-de-France, c'est une victoire qui lui permettrait de dire « j'ai battu tout le monde, le Rassemblement National, les macronistes, la gauche pourtant unie ». Est-ce que la candidature Bertrand est une inquiétude pour l'Élysée ?
Absolument, mais à condition que la droite veuille bien de cette candidature. Et c'est là où l'Élysée, c'est l'inquiétude de Gérard Larcher à la tête du Sénat, et c'est là où l'Élysée peut essayer de mettre le coin au sein de son opposition de droite. C'est-à-dire s'il y a de la contestation sur la candidature de Xavier Bertrand. Évidemment, si Xavier Bertrand l'emporte haut la main, sans avoir même besoin de La République En Marche pour se faire réélire, le chemin sera plus ouvert. Mais on voit bien que au sein chez les Républicains, il y a encore une opposition. Le chemin n'est pas complètement aplani. Et il se pose la question de savoir comment faire s'il ne s'agit pas d'une primaire. Oui. Quel chemin emprunter pour parvenir à sa désignation?
Ce sont peut-être les régionales qui vont tout simplement désigner le candidat. C'est ce qu'il a dit aussi dans notre studio la semaine dernière.
Certes, mais si vous avez Valérie Pécresse, qui elle aussi semble pouvoir gagner très nettement en Ile-de-France, Laurent Wauquiez, qui lui en région Auvergne-Rhône-Alpes est bien placé, les trois vont dire « mais je n'ai aucune raison de me retirer devant un candidat qui a quelques points d'avance, mais peut-être pas suffisamment ». Sauf que vous l'aviez souligné en passant, le président de la République, tout en le craignant, a alimenté son récit, son récit de candidat, en envoyant face à lui un ministre de la Justice quand même, qui est un poids lourd, et en préparant d'une certaine façon son trampoline pour Xavier Bertrand.
En quelques mots, je ne peux pas ne pas vous poser une question sur la gauche, elle paraît très largement absente. Est-ce qu'on va l'entendre au sens premier du terme, c'est-à-dire l'écouter dans ces élections régionales, et bien entendu ensuite dans cette présidentielle?
C'est compliqué. Qui écouter en dehors de Jean-Luc Mélenchon, opposant, unique opposant, le seul à dépasser les 10% dans les sondages? Anne Hidalgo, pour l'instant, a dit qu'elle y allait. Elle commence son Tour de France, mais est-il audible, ce Tour de France. On se demande exactement ce qu'il est, alors qu'elle a dit dans nos colonnes du Figaro que sa candidature pourrait même être reportée au début de l'année 2021. Il y a aussi Yannick Jadot que l'on entend, que l'on voit, mais va-t-il être désigné par ses pairs écologistes, par la primaire des Verts qui aura lieu en septembre? La question est moins que certaine. Alors il se débat, il avance, ils avancent tous, mais pour l'instant, personne ne les entend.
Un dernier mot, Nicolas.
Oui, un dernier mot. Anne Hidalgo ne s'est pas vraiment déclarée, donc comment pourrait-elle gagner des suffrages en ne disant pas qu'elle veut vraiment, qu'elle a envie?
Il y a un moment où il faut dire qu'il y a avoir le courage de dire les choses.
Quant aux écologistes, je dois confesser que je me suis trompé. Je pensais qu'ils assumeraient bien leur victoire au municipal au pluriel, et ils ont une capacité à se suicider. Vous savez, Lénine disait que le gauchisme était la maladie infantile du communisme, c'est aussi la maladie infantile de l'écologie, le gauchisme.
Merci beaucoup Sophie Darvinel, grand reporter politique au Figaro, Nicolas Demenac, éditorialiste au magazine Challenge. Dans un instant, vous êtes comme ça, you are like that, et puis on va refaire un point sur notre météo qui est bien perturbée avec Louis Baudin.
RTL Matin.
Notre météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin, elle est perturbée. Je précise tout de suite à ceux qui nous écoutent en région parisienne qu'on a déjà 350 km de bouchons. Oui. Un vendredi matin, c'est énorme.
C'est énorme parce que nous avons effectivement ces averses orageuses très très intenses, et donc il faut rester prudent sur la route. Alors quand même, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça va s'améliorer dans la demi-heure qui arrive.
Oui.
Les précipitations vont cesser, donc il va y avoir une accalmie, mais malheureusement, ce risque orageux va reprendre tout au long de la journée sur cet axe qui va des Pyrénées au Nord-Pas-de-Calais. C'est là où on aura ces averses accompagnées de grêle, de fortes rafales de vent, de risque d'inondation. On peut avoir des chaussées inondées pendant quelques quarts d'heure. Et tout ça va persister tout au long de la journée. Alors, sauf sur la Bretagne, où là, on va retrouver du soleil. Et puis, près des frontières de l'Est également, où on aura un temps un petit peu plus calme, sauf en montagne, où il y aura là aussi un risque d'orage. Et puis, plus de soleil entre la Côte d'Azur et la Corse. Demain, eh bien, l'amélioration va commencer par l'Ouest.
Ah.
Dans l'Ouest, on a ces orages. Là, on va retrouver un temps plus sec, plus ensoleillé, près de l'Atlantique, sur les côtes de la Manche, sur l'île de France, toute la moitié Ouest. Dans l'Est, encore des averses orageuses, notamment près des reliefs, sauf tout près de la Méditerranée. Et puis pour la journée de dimanche, hop, encore un cran de mieux, c'est-à-dire qu'on aura encore quelques averses en montagne, mais surtout en fin de journée. Donc pour l'essentiel, quand même un temps plus sec, plus ensoleillé, notamment dans l'ouest. Et puis pour la semaine prochaine, ça se confirme. L'anticyclone dont je vous ai parlé hier revient, il pousse.
Très bien.
Et c'est lui qui va s'imposer. Donc petit à petit, on va retrouver un temps calme, ensoleillé. Il y aura un petit risque d'orage, mais seulement en montagne en fin de journée. C'est normal à cette époque de l'année. Et puis les températures vont profiter pour repartir à la hausse. On sera entre 20 et 25 degrés dans la moitié nord, 25 à 30 dans le sud.
C'est la chaleur des derniers jours qui a créé ces orages.
Voilà, exactement. Il y a des déséquilibres qui se créent, activité orageuse, et puis de nouveau une période un petit peu plus stable devrait s'installer la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Louis Baudin nous annonce le retour de la stabilité pour la semaine prochaine. Oui. Je le remercie abondamment. Et maintenant, on va s'intéresser à vous, puisque vous êtes comme ça.
RTL, vous êtes comme ça.
Ce matin, vous êtes comme ça, nous conduit au Drenec, près de Brest, dans le Nord Finistère, où Brice Augrin, un jeune homme de 30 ans, traque les failles informatiques des entreprises, à leur demande, comme un chasseur de primes des temps modernes. Bonjour Patrice Gabart.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Brice Augrin est ce que l'on appelle un hacker éthique, un pirate informatique bienveillant et sans capuche sur le crâne.
Oui, cet ingénieur de formation que ses études ennuyaient profondément a choisi la passion de son enfance pour en faire son métier. Un métier méconnu du grand public qu'il exerce dans le salon de sa maison en Bretagne, un salon truffé d'écrans d'ordinateur.
Le télétravail chez nous, c'est plein d'écrans et c'est une facture d'électricité assez conséquente. Oui. Donc à l'heure actuelle, on est sur un événement de sécurité informatique. Pendant 3 jours non-stop, on est à la recherche de failles informatiques pour une entreprise sur laquelle on ne peut pas s'épancher pour des raisons de confidentialité. C'est finalement comme un jeu, comme une énigme qu'on essaye de résoudre.
Ce sont des plateformes internationales spécialisées, comme ici YesWeHack, qui mettent en relation les entreprises et les hackers éthiques.
L'entreprise, ce qu'elle fait en premier lieu, c'est qu'elle fournit ce qu'on appelle un périmètre. Ça veut dire votre terrain de jeu, c'est le suivant. Vous pouvez aller jouer à tel endroit, mais par contre là, vous n'allez pas, etc. C'est nouveau à chaque fois, donc ça peut être du médical, ça peut être de l'e-commerce, ça peut être de l'industrie, ça peut être de la finance, comme si on était vraiment dans la peau de cyberattaquants, enfin de cybercriminels.
La cybersécurité, une chasse au trésor vertueuse et chronophage.
Alors en ce moment, on a 15-16 heures par jour à peu près. Surtout si on va se coucher, qu'on n'a pas trouvé la solution technique et que la solution apparaît dans la nuit, oui, vous pouvez être sûr qu'on va se relever, oui, ça c'est clair. Dans le cadre du bug bounty, c'est le nom que ça porte, ce qu'on est en train de faire. Bug Dog Bounty, chasseur de primes à la française. Et nous sommes rémunérés pour les failles qu'on trouve. Sur des montants assez intéressants, entre 4 et 5 chiffres.
La hauteur de la gratification dépend de l'impact de la faille qui a été identifiée.
Ça peut être un impactant sur la disponibilité des données. Je peux tout effacer à distance, ils perdent tout, ils n'ont pas de sauvegarde. Ça peut être impactant sur la notion d'intégrité. Par exemple, fausser de la donnée médicale, que sais-je, ou sur un site e-commerce pour imaginer changer un prix, par exemple.
Autrement dit, les hackers éthiques sont très précieux pour les entreprises qui les emploient.
Pourtant, on a toujours tendance à confondre hackers, pirates informatiques et cybercriminels.
C'est pour cela que Brice insiste sur le qualificatif éthique, pour bien faire la différence, car lui-même a souffert de cette confusion il y a un peu plus de 5 ans, lorsqu'il alerte sa propre banque de problèmes de sécurité informatique, notamment l'accès à des comptes personnels sur Internet. La banque se retourne d'abord contre lui.
Et c'était une démarche citoyenne, en fait. Sauf que, juridiquement parlant, j'étais en défaut. Et aujourd'hui, des autorités de régulation comme l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, nous offrent, je dirais, une barrière de protection sur ce genre de démarche.
Finalement, c'est la recrudescence des attaques informatiques, en particulier en 2017, avec le logiciel malveillant WannaCry, un virus de rançon qui touche des milliers d'ordinateurs à travers le monde et paralyse des usines, qui conduit le breton d'adoption à en faire son métier.
Je comprends, mais je n'excuse pas pour autant ceux qui ont fait le choix de basculer du mauvais côté, du fait qu'on finit par développer, je dirais, un sentiment de ras-le-bol en se disant j'ai des compétences, je peux pas les mettre au service du bien ou à défaut quand je l'essaye de manière citoyenne de dire vous avez des failles là, etc. Toute la contrepartie, c'était négatif. Donc ils ont fait le choix de basculer. À titre personnel, je l'ai pas fait.
Et l'année dernière, c'est la consécration avec la découverte d'une faille informatique dans une technologie utilisée par de très grosses entreprises, un jackpot de plus de 100 000 euros.
Je pense que le fait que le métier soit mis sur le devant de la scène, soit valorisé et soit finalement présenté un peu comme une revanche du temps passé, ça aide un peu tout le monde à sortir de l'ombre qui a été mise sur eux.
Avec la société qu'il vient de créer, BZ Hunt, Brice Augras espère susciter des vocations et former de nouvelles recrues pour améliorer la cybersécurité en France.
Merci beaucoup Patrice Gabart pour ce portrait d'un hacker qui, on peut le dire, a du cœur, et c'est à retrouver sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
8h41. Alors, grande fresque ce matin. Isabelle Choquet, vous nous faites découvrir une bande de doudingues avec un projet totalement fou, monter un show de majorette, j'ai bien dit de majorette, en hommage à Freddie Mercury.
Rien que ça, oui. Ils sont sept quinquas de Guéméné-Pinfao, j'espère que je prononce bien, c'est en Loire-Atlantique.
Oui.
Sept gars emmenés par une capitaine déjantée qui les dépasse tous d'une tête d'ailleurs. Le magazine Cosette les a suivis en répétition et c'est rock'n'roll, forcément. Il faut les imaginer, jambes écartées en jean moulant, débardeur blanc, la moustache frémissante, la gomina dans les cheveux un peu grisonnants. Ils chaussent les lunettes aviateur et au coup de sifflet de la coach brandissent vers le ciel leur twirling bâton. Ce délire est né d'une insomnie. Une nuit blanche de Cécile Le Guerne, bac plus de clown, selon son CV non officiel. Elle rêve d'un show dans lequel elle est une femme qui se déguise en homme, qui se déguise en femme. Compliqué, hein ? On est en 2018, l'année de sortie du biopic Bohemian Rhapsody. C'est aussi la sortie du Grand Bain, ce film sur un groupe d'hommes qui font de la natation synchronisée. Dans l'esprit de Cécile, une connexion se fait. Elle trouve le nom parfait. Queen Amman, référence à ses origines bretonnes. Elle passe un coup de fil à six copains du coin, un clown d'hôpital, un acrobate, un mime, un marionnettiste, plus son homme à elle, Cyril. À la première répète, dans une vieille église sans chauffage, les garçons comprennent que ce ne sera pas que de la gaudriole, car ils sont entraînés par Éric Martin, chorégraphe spécialiste de la majorette, venu exprès de Paris pour leur faire bosser le bâton. C'est lui qui a dirigé la danse d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Il a inventé aussi les danses d'Aline, le film de Valérie Le Mercier. Bref, un cadeau. Rien qu'à l'échauffement, les gars sont claqués. Alors ils enchaînent les répètes comme des fous. Vient le jour du filage, la première répétition intégrale, comme en vrai, en l'occurrence en extérieur. Ça commence très fort. Le son sort d'un petit véhicule jaune pétard auquel sont accrochés deux méga enceintes. Véhicule orné d'une moustache, bien sûr, de grosses lunettes de soleil et d'une couronne. Ce jour-là, les Queen Amman testent pour la première fois leurs capettes, des petites capes donc, avec sur le devant un plastron à chaînette. C'est jaune fluo et bleu roi, ou bleu reine plutôt. Comme à 8 ans, on fait comme si, et les bâtons de majorette deviennent des sceptres, des sabres de combat, des guitares ou encore un aspirateur, comme dans ce clip culte. I want to break free. Vous l'avez compris, ça rigole bien, mais la nostalgie n'est pas loin. Queen, c'est l'enfance, l'adolescence, les booms. C'était une autre expérience de la musique, dit Eric. On achetait des disques, c'était physique, cérémonial. On se donnait rendez-vous pour écouter les albums entre amis. Cyril imagine ce que serait devenu Freddie Mercury, sûrement qu'il mettrait des leggings. Les Quinaman se retrouvent dans le côté frondeur du chanteur. C'est un peu leur message d'ailleurs, dire que ça peut être normal de faire ça, d'être des hommes qui dansent joyeusement à 40, 50 ans. Certains l'avouent, dans les années 70, 80, ils auraient bien fait la majorette avec leur sœur ou leur cousine. On se rattrape 35 ans après, même s'il faut encaisser quelques moqueries. En allant chercher ses enfants à l'école, l'un d'eux a entendu un petit lui demander « Ah, c'est toi la majorette ?»
Bien sûr.
Le rêve des Quinaman, c'est de se produire l'an prochain au Hellfest, le festival de hard rock de Clisson. Mais en attendant, 30 ans après la mort du chanteur de Queen, ils joueront cet été dans les rues sur la route de vos vacances. Ce sera après l'Euro et qui sait, on chantera peut-être... Les Quinaman, ce reportage rafraîchissant à retrouver dans Cosette du mois de juin.
Merci beaucoup. J'espère que comme Isabelle et moi, vous aimez les Queens. En tout cas, vous nous avez fait passer un excellent moment. Et on se retrouve lundi matin.
Bon
rendez-vous.
Week-end à vous.
Bon week-end. Dans un instant, toute l'équipe de Laurent Gérard est avec nous.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Dominique Strauss-Kahn.
Bonjour Michel.
Ouais, ouais, ouais. Je suis pas en état.
Ça va mieux ? Non, mais... Vous aimez Roland Garros ? Moi, je ne manquerai ça pour rien au monde. Je suis plutôt tennis féminin.
Ah, tiens donc.
Et surtout en double. Alors vous allez me dire, why female tennis?
Écoutez, j'allais vous le demander.
Ce qui me plaît avant tout, ce sont les petits cris qu'elle pousse à chaque effort.
Ouais.
Et puis leurs petites jupettes qui, lorsqu'elles servent, laissent entrevoir leurs jolies culottes. Et puis leur façon si particulière de soupeser, faire sauter les balles dans leurs mains. Avant de servir, et cette dextérité lorsqu'elles empoignent le manche avec force. Et parfois même à deux mains, mon cousin.
Oh. Oh là 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 là.
Dans ces conditions, vous comprenez... Dans ces conditions, vous comprenez que j'ai pu commettre une faute morale dont je ne suis pas fier.
Aïe, aïe, aïe. Ah bon, alors laquelle encore?
Quand l'arbitre a dit balle neuve, je me suis déloqué dans la tribune et... Je suis allé sur le central pour proposer les miennes.
On apprend qu'en Chine, un premier parc d'attractions consacré au sexe va ouvrir. Un commentaire, Philippe Devilliers ?
J'ai appris en effet qu'à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, va s'ouvrir ce parc consacré à l'histoire de la sexualité et à ses techniques. En tant que fondateur du Puy du Fou, il va sans dire que je suis révulsé à l'idée que les Chinois dénaturent de façon aussi indécente les principes de mon parc d'attractions en ouvrant ce que j'appellerais un puits du foutre. J'ai regardé un documentaire sur les travaux en cours. Bah ! Dans la clairière d'une forêt de phallus géants, on découvre la maison des sept nains priapiques. Devenue une véritable boule de vis, Blanche-Neige se livre sans retenue à tous les caprices de sept détraqués du Chibroc. Tout ça sous les yeux exorbités des visiteurs. Dans le train fantôme chinois, la main anonyme qui vous gratte soudain dans le noir ne se contente pas de vous chatouiller l'occiput. Mais le plus choquant dans ce parc, véritable Sodome et Gomorre extrême oriental, c'est dès l'entrée de la statue gigantesque d'une jeune femme à moitié nue, jambes écartées vêtue d'une culotte fendue en soie minimaliste, qui ne laisse rien ignorer de ce que la décence interdit à une femme respectable d'exhiber à la vue de tout un chacun. J'arrête, je bande.
Aïe, aïe, aïe. Oui. À l'occasion du 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand, sortent de nombreux ouvrages. L'occasion de se souvenir de la correspondance intime du président avec Anne Pinjot. Aujourd'hui, nous révélons un courrier inédit daté de décembre 84.
Mon âne, mon ânette, mon ananas. Le ciel de décembre est gris et le poids de ma fonction harassant. Mais ça y est, nous voilà débarrassés des communistes. Ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius. bon débarras. Avec leurs cravates en velours et leurs costumes Manu France en tergale, on se serait cru en Roumanie chez les Ceausescu. Désormais, on va pouvoir fermer la sidérurgie en Lorraine. Chouette. Mais au fait, est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je te l'ai déjà écrit. Mes grands travaux me donnent bien du souci. La Villette, la Grande Arche, le Louvre, l'Opéra Bastille. C'est à peine si j'ai le temps de faire un petit collage de temps en temps dans mes appartements privés entre deux rendez-vous. Ah, ces collages. Puis, c'est tellement difficile de trouver de bons artisans. Et tu connais les architectes, tous des médiocres sans ambition. Ils ont saboté mon projet de très grande bibliothèque Anne Pinjot. Je leur avais demandé de nous faire un petit nid d'amour avec vue sur la Seine, au sommet des quatre tours en forme de livre. Ils refusent ces andouilles. Et je dois me battre à chaque conseil des ministres avec tous ces rabat-joie qui n'ont que les mots économie et rigueur à la bouche. On dirait que c'est leur argent. L'autre jour, je suis allé voir les travaux de l'Opéra Bastille. Pour la façade, j'ai choisi le même carrelage blanc que celui de notre salle de bain. Dans notre petit hôtel à Belle-Île. Comme ça, quand tu passeras devant, tu penseras à moi. Mais fais attention, elle se détache. Elle se détache chaque langue. On a même pris une sur le pied. Ça m'a bien fait rire. J'ai emmené notre petite Mazarine pour la visite du chantier. Quelle joie de la revoir. Ses incisives ont beaucoup poussé depuis l'été dernier. Elle est toujours aussi énigmatique et souveraine. Et tellement facétieuse. Dans les vestiaires, elle a mis les crottes de Baltique dans les bottes de Maître Kiejman. Et de la confiture dans le casque de Georgina Dufoy. Quelle rigolade! Je suis dans l'avion du glam qui me ramène des Antilles. J'ai rapporté du rhum au bois bandé. Tu verras, c'est très efficace. Je l'ai déjà essayé en faisant un collage. Je te laisse avec ce petit poème qui résume mes premières impressions sur la Guadeloupe. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux. Un spectacle permanent. C'est comme dans les... Comme dans les... Comme dans les... Comme dans... Comme dans... Comme dans les... Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux, plein de piquants sur le dos. Oh, 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 comme dans les tableaux du douanier Rousseau.
Et on ne va surtout pas se priver de retrouver pendant tout le week-end Laurent Gérard à 6h15 avec Christophe Paco et 7h50 avec mon camarade Stéphane Carpentier. Voilà, dans un instant, on va retrouver Cyril Lignac et ensuite toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Et vous savez que nous avons un rendez-vous formidable ce matin avec Laetitia Colombani, l'auteur du best-seller La Tresse, publie mercredi prochain son troisième roman, Le Cerf-Volant. Elle nous emmène une nouvelle fois en Inde. Elle sera avec nous dans ce studio, bien entendu, avec Bernard Lehu, dans quelques instants. On retrouve tout de suite... voilà, on retrouve tout de suite Cyril Lignac. Bonjour Cyril. Ah, après la pub, mais il est là mon Cyril, alors je lui dis bonjour. Coucou.
Salut.
Ah voilà, j'attendais un petit salut. Bon, vous êtes venu avec des aubergines farcies aujourd'hui, hier c'était les courgettes, avant-hier les tomates.
C'est la semaine.
Alors vous savez quoi, ça me rend heureux, c'est aussi simple que ça. Voilà, Isabelle aussi. Oui. À tout de suite.
RTL Matin. Yves Calvi.
Et nous poursuivons avec persistance notre grande fresque des farcis avec Cyril Lignac. Alors aujourd'hui les aubergines, après les tomates et les courgettes, je vous écoute avec bonheur.
Alors là on va faire les aubergines aujourd'hui, donc on coupe l'aubergine en deux.
Très bien.
On creuse un petit peu l'intérieur pour enlever la chair. Mmh. On fait chauffer une poêle, on met de l'huile d'olive sur l'aubergine et moi je lui mets un peu de curry dessus.
Ah oui.
Sel et curry. On fait revenir à la poêle, histoire de les marquer un petit peu. La chair d'aubergine, on la garde. On met un oignon dans une cocotte qu'on coupe finement, de l'huile d'olive. On y met l'aubergine. J'ajoute toujours des poivrons pour cuisiner un peu tout ça. Du basilic, de l'ail, de la viande hachée, comme on disait hier, moitié bœuf ou moitié porc ou veau et bœuf. Ah, voilà. On ajoute de la sauce tomate à l'intérieur, on laisse bien mijoter. Ensuite, on récupère nos aubergines, on les farcit avec notre mélange de aubergines, poivrons et viande. On préchauffe le four à 200 degrés. On met à l'intérieur, on dépose un petit peu de chapelure et une noisette de beurre, on fait cuire. Pendant que ça cuit, je prends un petit yaourt grec avec, j'y mets à l'intérieur de la coriandre fraîche, j'y mets des noisettes que j'écrase un tout petit peu à l'intérieur, et j'y mets du curry. Comme ça, ça me fait toujours une petite sauce fraîche pour manger avec les aubergines quand elles sortent du four. C'est délicieux parce que ça nous fait un contraste chaud-froid avec un petit peu d'acidulé et le voyage avec le curry.
Tout cela est charmant. J'ai le droit de passer mes noisettes à la poêle un tout petit peu avant de les écraser?
Oui, c'est même conseillé.
Très bien, c'est bien ce que je pensais. Et la recette est à retrouver sur le site rtl.fr. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point de l'information avec Jérôme Florin.
Un nouveau féminicide hier soir à Colmar. Un homme de 51 ans a jeté son ancienne compagne par la fenêtre du 8e étage d'un immeuble. La victime avait 48 ans. L'individu a été interpellé. Il est actuellement en garde à vue. Pluie et orage sur une grande partie du pays. Deux soirs de suite, la ville de Thieux, en Seine-et-Marne, s'est retrouvée en partie inondée. Les habitants qui avaient passé la journée d'hier à nettoyer sont sous le choc.
La véranda, la porte, avec la pression de l'eau,
elle a pété.
Le temps de compter jusqu'à 20, il y avait ça d'eau déjà, on n'a pas pu se relever.
C'était impressionnant. Vous avez perdu un peu...
C'est la cave qui est inondée en fait. Mais ma voisine, toutes les deux maisons, ils sont...
Ah, je me dis, c'est pas possible. Ah non, mais à cette ampleur, c'est une catastrophe. Non, là...
J'ai jamais vu ça, hein.
Les Européens vaccinés contre le Covid pourront entrer en France sans faire de test PCR et ce à partir du 9 juin, donc mercredi prochain. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. L'opérateur Orange annonce le lancement d'une enquête interne approfondie pour identifier l'origine de la panne qui a paralysé mercredi les numéros d'urgence. Un incident qui serait à l'origine d'au moins 4 décès d'après un bilan toujours provisoire. Et puis Roland Garros continue sans nous, sans les Français. Ils ont tous été éliminés. C'est la première fois dans l'histoire du tournoi qu'il n'y aura aucun tricolore au troisième tour.
Merci beaucoup.